Bonjour, je suis Alexandre.
Et je suis Florent.
Et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 41e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en janvier 2010, je suis Alexandre et comme d'habitude, je suis en compagnie de Florent. Comment vas-tu, Florent ?
Bonne année tout le monde,
d'abord. Bonne année tout le monde, exactement. Tous nos vœux de bonheur à tous, de réussite.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? De santé,
de
loot,
surtout. De VH, de haut fait, etc. J'espère que votre début d'année a été aussi bon que le nôtre. Moi, il a été lourd en travail, je pense que ça a été pareil que pour toi.
Oui, pour moi aussi, ouais. Après les réjouissances de Noël et du jour de l'an, il a fallu faire mes partiels.
Tu t'en es sorti ou pas ?
Bah, j'espère, on verra. Hein. Mais je pense que ça devrait aller.
Ouais, tu m'avais expliqué que c'était un système en plus où tu pouvais te rattraper au deuxième semestre s'il y avait eu des problèmes au premier. Donc bon.
Voilà, ouais.
Ok, tu ne joues pas ta vie sur ce partiel, tout va bien. Donc.
Je pense, j'espère.
Voilà, bon, on verra ça le mois prochain si t'as tes résultats, je sais pas quand tu les as, mais bon. On va vous parler peut-être aussi un peu de nos bonnes résolutions, ou du moins des bonnes résolutions d'Azeroth.fr. Donc, quelles sont tes bonnes résolutions, Florent ?
Et bah, pour l'instant, c'est d'acheter un micro. Ça a pas l'air, mais en fait, je n'ai pas vraiment de micro là.
On s'en est rendu compte le mois dernier, en faisant les tests son avant d'enregistrer. On se marrait un petit peu et on s'est rendu compte que le micro de Florent n'était pas... En fait, il parlait dans un micro depuis octobre, en fait. Et tu parlais dans un micro qui ne fonctionnait pas. Donc, tu parlais avec ton micro qui est intégré, c'est ça, ton PC ?
Voilà, en fait, je croyais que mon micro était branché, donc ça marchait. Mais en fait, l'entrée du Mac est un peu différente, ce qui fait que les casques normales en prise... D'entrée, ça marche pas en fait, donc ça marche que en USB ou alors avec un adaptateur.
Fallait donc, prendre ce qui fait un que... PC.
Non. Depuis le temps, donc en fait, j'utilise mon micro intégré et donc bah, là, je compte acheter bientôt un micro qui serait donc, pour ceux qui sont intéressés par savoir qu'est-ce que c'est le Blue Yeti, donc par Blue Microphone qui sont quand même une grosse boîte pour les micros, quoi. Ils sont assez connus.
Ok, donc comme ça, on va t'entendre comme si tu étais à côté de moi, c'est ça ?
Voilà, ouais.
Ok, bah moi, à côté de ça, ma bonne résolution, c'est de me payer un nouveau PC. Donc si tout va bien, je devrais l'avoir avant le prochain épisode. En fait, il faut que je le commande là déjà, mais il faut que je voie un petit peu, puisque j'ai eu mes 18 ans, il y a à peine quelques jours. Donc une petite cagnotte est tombée pour ces 18 ans, et ça va me permettre de un petit peu renouveler les antiquités qui sont un petit peu à côté de moi là. Et pour Azeroth.fr, et bah, qu'est-ce qu'on compte faire ? Peut-être agrandir l'équipe, non ?
Oui, passer à 3, ça serait un très beau nombre, moi je dis.
On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, ça. Quelques autres petites choses qu'on a dans nos cartons, donc bon. On espère vous surprendre, ou du moins vous faire plaisir pour cette nouvelle année, qui sera, je l'espère, une année de confirmation pour nous. Et bien, ça sera tout pour l'intro, et on va passer dans le sommaire. Donc, partie info, qu'est-ce qu'on va avoir ce mois-ci? Nous aurons d'abord ce qui s'est passé en décembre et en janvier, ou du moins jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire le 17 janvier. Nous aurons les réactions, ou nos réactions plutôt sur la 3.3, ce qu'on en a pensé, etc. Et évidemment, quelques infos de Cataclysme, comme toujours, un petit peu plus ce mois-ci que les mois derniers, ça nous fait plaisir. Partie éditoriale, nous aurons Warcraft pour les nuls avec le truc et le mode du mois. Nous aurons, comme d'habitude, le Mind Pet Show, proposé par Jérôme. Warcraft pour les semi-pros, nous aurons comment devenir pro et pas de débat du mois. Ça fait 2 mois de suite, mais on n'a pas grand-chose à vous raconter en ce moment du côté du débat, donc bon, peut-être pour le mois prochain. Et partie éditoriale aussi, l'histoire de la guerre des trois marteaux. Et enfin, pour terminer, le traditionnel fourre-tout avec les on aime, on n'aime pas, le cadeau bonus et évidemment la partie d'hiver. Et nous nous lançons tout de suite dans la partie news. News et tout d'abord ce qu'il s'est passé en décembre et en janvier. Et en décembre, il y a eu la fameuse pause de Noël dans Warcraft et un peu partout en fait. On a eu une sorte de gros trou d'une semaine et demie, 2 semaines, où à peu près tout s'est arrêté, que ce soit les sites de fans, enfin non, quand même les sites de fans comme MMO Champion et Jogip ont continué de fournir quelques news, mais en général c'était plutôt des, comment on dit, des reviews sur Cataclysme, les infos qu'on avait à la BlizzCon, etc. Enfin bref, on a eu des choses qui. Enfin, pas vraiment, pas de réelles nouveautés pendant cette pause. Heureusement, on est un petit peu en retard ce mois-ci, donc on a eu quelques infos en janvier, à la reprise. Donc bon, c'était un petit peu pauvre durant cette petite durée. Et évidemment, il y a eu en décembre la sortie de la 3.3, qui a coïncidé pile poil avec la sortie de la première partie de l'épisode. Et cette sortie de la 3.3 a été suivie d'une pléthore complète, des tonnes de hotfix, enfin des tonnes, comme d'habitude, quelques petits hotfix, et un petit patch, le patch 3.3A. Je pense que le 3.3B devrait sortir soit la semaine prochaine, enfin soit ce mercredi-là, mercredi où l'épisode sortira, soit le mercredi d'après, ça serait plutôt le mercredi d'après, je pense, parce qu'il va falloir qu'il lance la saison 8 d'Arène. Donc bon, on verra ça un peu plus tard. Et parmi ces hotfix, il y en a eu quelques-uns de notables. Donc on a eu par exemple une simplification encore plus extrême de l'Oculus. Donc on vous avait déjà dit à l'épisode précédent que l'Oculus avait été grandement simplifié, que Blizzard faisait ça pour que les gens qui vont dans cette instance via la recherche de donjons aléatoires restent dans le groupe et ne s'enfuient pas avec leurs jambes à leur cou en se disant que ça allait être quelque chose de totalement impossible quoi. Et donc là c'est encore simplifié et c'est même boosté en termes de loot, car si vous faites cette instance et si vous arrivez à tuer le boss final, attention seulement via le système de donjon héroïque aléatoire, vous aurez, tenez-vous bien, 2 insignes de triomphe en plus, ce qui est on crache pas dessus, vous aurez des gemmes rares, donc ça c'est plus que sympa, et vous aurez en plus une chance de tomber le drac bleu. Donc le drac bleu, c'est celui qui ne tombait avant que sur Maligos en raid 10. Donc bon, vous pouvez voir que là, c'est même une monture qui est extrêmement difficile à avoir, enfin qui était extrêmement difficile à avoir jusqu'à aujourd'hui. Là, ça devient un peu plus abordable. Et pour info, le Drac Azur, qui tombait avant seulement sur Maligos à 25, maintenant va tomber sur Maligos 10 et sur Maligos 25 toujours, à des taux de drop, me semble-t-il, ça reste les mêmes. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Florent, de cette simplification de l'Oculus.
Bah, je pense tout d'abord que bon, déjà ils l'ont simplifié, je comprends. Parce que bon, il y avait plein de joueurs qui rechignaient à aller à l'Oculus. J'en connais même qui, tu rentres dans un groupe, tu dis super, je vais pouvoir faire. Enfin, il y a le groupe nickel, on pourra aller à l'Oculus. Et là, il y en a trois qui partent parce qu'ils veulent pas faire cette instance. C'est quand même assez énervant, donc. Donc, peut-être que c'est à cause de ça, mais en soi-même, je trouvais que déjà que la simplification était déjà suffisante. pour ma
Ouais,
part.
je trouve aussi que c'est un petit peu trop. Enfin, je pense qu'ils ont plus de statistiques que nous. Et à mon avis, enfin, via leurs statistiques, ils ont pu voir que ça fonctionnait peut-être toujours pas cette instance. Donc bon. Mais cette histoire de là, c'est vraiment la carotte pour que les gens aillent dans cette instance. Et je trouve,
Oui, voilà,
enfin,
le drague bleu surtout.
ouais, je trouve ça un petit peu trop quoi. C'est s'ils se rendent compte que l'Oculus marche pas, bah il marche pas. Enfin, j'espère au moins qu'ils prendront note que ce type d'instance fonctionne pas très bien. Ou alors il faudrait vraiment faire une instance plus simple, ou du moins qui ait moins de combats sur monture spéciale, sur véhicule. Parce que là, c'est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs, ils ont dit il y a quelques jours via le. Comment ça s'appelle? Ah, la question-réponse Twitter, que le combat, évidemment, via les sorts, etc., et via l'interface normale pour les joueurs, allait continuer à être le plus important évidemment dans le jeu. Hein. Ils ont tenu à rassurer les joueurs, enfin plutôt un joueur qui avait posé la question, comme quoi ça restera évidemment la majeure partie du jeu, et on ne verra pas non plus à tous les coins de rue des combats en véhicule qui deviendraient un peu trop constants dans le jeu. Dans ces hotfix, il y a encore, alors trois hotfix, ils sont un peu plus récents cette fois-ci, et encore ces trois autres instances qui ont été simplifiées. Alors cette fois-ci, je comprends un peu plus cette simplification. C'est l'instance d'Ankaet, l'ancien royaume. Donc dans cette instance, il y aura moins de trash. L'ancien Nadox, pour ceux qui connaissent, n'aura plus qu'un seul gardien. Et pardon, Gedoga cherche l'ombre, ne fera apparaître, enfin, ne demandera, ne choisira plus qu'un seul élu pendant le combat, et non plus environ, ça dépend du DPS, mais en général il y en avait trois, en gros deux ou trois, donc maintenant il n'y en aura plus qu'un. Ankaet, je comprends, parce que ça restait une instance quand même vachement longue. Je me souviens surtout le truc des trois plateformes, etc. Tu as déjà fait cette instance, je suppose, Florent?
Oui.
Et tu en
Et
penses quoi?
bah moi je trouvais que ça tournait bien comme instance. J'ai pas eu de problème. Je crois qu'il y a même un refait pour en faire en tant de temps tuer l'ancien Nadox, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et
Non, l'ancien Nadox, ça c'est un fait, mais ça demande de le tuer alors que le gardien n'a pas été tué.
non, c'est pas celui-là, je ne sais plus donc. Mais je trouvais que ça tournait bien. Et par exemple, les élus, moi j'ai eu aucun mal à la faire, par exemple, sans tuer aucun élu, quoi. Je trouvais que ça tournait vraiment très bien, quoi. Donc bon.
Ouais, ça tournait bien. Non, enfin, niveau trash, quand même, c'était vachement balèze. Hein. Les trash pour aller jusqu'à Gedoga, cherche l'ombre.
Oui, ceux-là, ils sont assez durs, là, ceux-là.
Ils sont pas durs, mais il y en a un paquet, quoi. Enfin, les élémentaires, bon, tu peux les faire à la E, mais quand t'as fait 5, 6, 7 packs, au bout d'un moment, voilà quoi. Ça devient super monotone, et par rapport à d'autres instances, c'est vrai que en termes de temps, c'était pas du tout. Enfin, ça n'apportait pas beaucoup d'insignes. Donc bon, un petit plus sain pour cette simplification, ça aurait été même sympa qu'elle arrive un petit peu plus tôt, mais bon. On va pas non plus se plaindre lorsque c'est un up. Autre instance simplifiée, le Nexus. Donc dans le Nexus, tout petit changement, Anomalus, pour ceux qui connaissent, c'est le gros élémentaire blanc. Anomalus créera moins de failles au cours du combat. Donc ça va faciliter en plus le Haut-Fée qui demande de détruire aucune faille. Que j'ai d'ailleurs. Mais bon, le combat était pas trop difficile en lui-même. C'est vrai que ça pouvait faire durer un petit peu le combat. Petite simplification comme ça. Et dans l'épuration de Stratholme, changement énorme. Je crois que Florent, tu es fan.
C'est donc de supprimer enfin, la possibilité de passer plus rapidement l'intro.
Ouais, l'intro qui est quand même super longue. Alors je sais pas s'ils vont permettre qu'on ne doive plus chercher les caisses au début, etc. Ou quelque chose comme ça. C'est vrai que parfois, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus pénible, mais quand tu l'as vu 107 fois, bon, voilà quoi.
C'est comme à l'épreuve du champion, c'est pour vraiment simplifier le départ, quoi. Parce que bon, tu l'as vu une fois, c'est intéressant, mais après, au bout d'un moment. On a un peu marre, quoi.
Voilà, c'est clair, attendre 5 minutes à chaque fois, bon. Petit gain de temps, c'est même pas un up quoi, c'est un petit changement. Pour ce dernier changement, il me semble par contre qu'il faudra attendre le prochain patch mineur, donc le 3.3B. Qu'est-ce qu'il y a eu en décembre et en janvier? Bah, il y a aussi eu, le plus important je pense, l'ouverture de la citadelle de glace, avec tout d'abord les 4 boss, les 4 premiers boss qui étaient dans l'ordre le Gargamel, la Dame Murmemort, le combat en canonnière et le porte-mort Socro, oui c'est ça, le junior du moins.
Oui, c'est ça.
Ouais, et qui a été suivi ensuite le 6 janvier de l'ouverture d'une des ailes de la citadelle, c'est-à-dire la pesterie, avec Pulentraille, Trognepu et le professeur Putricide. Donc là, c'était plus dans la même cour que ça jouait. Hein. Gargamuel est relativement simple, les guildes n'ont pas eu de gros problèmes sur lui. En même temps, il a que trois techniques dans tout le combat, une sorte de tourbillon, des flammes par terre et comment dire, une sorte de prison de glace qu'il faut détruire. Donc bon, c'est pas très difficile. Dame Murmemort, apparemment, c'est bien plus difficile. Ça demande une gestion des ADD un peu plus, comment dire, un peu plus short à allier avec le timer, mais bon, c'est plus une histoire d'habitude qu'autre chose. Le combat en canonnière, apparemment, c'est plus plutôt facile,
Oui,
enfin,
ça va,
c'est
ouais.
fun, mais voilà quoi. Un pote m'a dit en gros, sur un ton humoristique, que le seul risque était que le tank tombe dans le vide, et bon, c'était ce qui lui est arrivé à lui, donc bon, voilà quoi, le pauvre. Et le porte-mort sur Crow, apparemment, pas mal de guildes se cassent les dents. Après les trois premiers boss, là, il y a eu un peu plus de difficultés. Et dans la pesterie, Pulentraille et Trognepus sont relativement abordables. Et par contre, le professeur Putricide, là, surtout avec l'histoire du système maximum d'essais, c'est-à-dire lorsque. Enfin, pour le moment, pour le professeur Putricide, vous n'avez que 10 essais par semaine. Donc, à part. Enfin, il y a pas mal. Moi, j'ai pas vu énormément de guildes qui ont tombé le professeur Putricide la première semaine. Là, ça commence à tomber petit à petit du côté du gratin, quand même, des guildes. Mais la guilde moyenne, entre guillemets, moyennement casuelle à 3 soirs par semaine, a encore un peu de mal à aborder ce boss. Et normalement, lorsque le podcast sortira, la deuxième aile devrait ouvrir, c'est-à-dire l'aile de la salle cramoisie, puisqu'on sera le 20 janvier, et donc qui débloquera deux nouveaux boss, les princes de sang Valanar, Kel'Thoeseth et Tal'Darram, ça c'est un boss, et la reine de sang Lanatel, ce qui va en même temps permettre d'augmenter le nombre de trails sur Pulentraille et sur Lanatel aussi, me semble-t-il, à 15, puisqu'il y aura deux ailes ouvertes, et quand il y aura les trois ailes qui seront ouvertes, ce sera à 20 trails. Donc on voit la simplification de plus en plus. Le 20 janvier, ça va aussi coïncider avec la fin de la saison 7 d'Arène, et le début de la saison 8 devrait donc commencer une semaine après, ou deux, ça dépendra du calcul. Note pour les gens qui pensent obtenir un titre ou une monture, ne changez pas de royaume entre les deux ou de race, ça risquerait tout simplement de vous faire perdre cela, donc évitez de changer de royaume maintenant. Et enfin, je te laisse parler de la dernière petite chose de décembre.
Qui est donc la fête du voile d'hiver, donc l'event qui se déroule donc tous les ans dans le royaume d'Azeroth. Alors donc qu'est-ce que c'est le voile d'hiver? Je pense que vous avez compris que c'est en rapport avec Noël, IRL donc. Donc on a le Papa Noël qui est à Taforgefer ou au Grimmar, si je ne dis pas de bêtises.
C'est le grand-père hiver,
Grand-père hiver, voilà.
oui. Ho, ho,
Et
ho, ho.
donc il nous donne quelques quêtes et donc quelques hauts faits aussi. Il y a eu très peu de nouveaux cette année par rapport à l'année d'avant.
En fait, il y a juste eu un truc nouveau, me semble-t-il. C'est un nouveau fait, en fait.
Bah, il y a eu quelques. Oui, il y en a eu plusieurs, si je dis pas de bêtises. Par exemple, les VH, on devait être déguisé en lutin. Et enfin, c'est des gnomes donc. Et aller tuer donc des ordeux ou des élanceux suivant notre faction. Celui-là, j'en suis même sûr, sûrement, n'y était pas.
Ah si si il y était Florent. J'avais commencé l'année dernière d'ailleurs. Ce au fait était en fait le seul nouveau au fait, c'est celui qui demande de jeter une boule de neige ou pas une boule de neige mais de
Prendre des
tirer.
carabines,
Voilà,
ouais,
c'est
tirer
ça.
au plomb
Tirer au
sur
plomb sur les ennemis.
les
Sur
chefs ennemis.
les chefs ennemis, c'est ça. Donc c'est le dernier au fait en fait. C'est un au fait supplémentaire. Par contre, il n'y a rien eu de nouveau. Le cadeau sous le sapin, il y avait la carabine évidemment. Permettait de tirer sur les chefs. Puis sinon, pas grand-chose de nouveau. Pas mal de monde a pu terminer son. Enfin, ceux qui avaient commencé l'année dernière ont pu terminer s'il leur manquait quelques hauts faits. Le haut fait le plus pénible étant celui qui demande de tuer les 50 membres de la faction adverse, puisque l'année dernière, et me semble-t-il encore cette année, on perdait le. Comment dire? Le buff lutin dès lors qu'on se faisait tuer une fois.
Voilà,
En
ouais.
gros.
Donc évidemment, quand tu arrives en BG ou en Joug, on voit que tu as le costume. On va
Et on te
évidemment
focus, ouais.
foncer sur toi pour que tu perdes ton costume.
Exactement.
J'ai eu plusieurs fois et je pense que le meilleur moyen de l'avoir, c'est d'être en défense au Joug. Parce que là, on est au canon, ou même en attaque. Ça, le Joug, je pense que c'est le meilleur moyen pour faire ce fait très rapidement.
Bah, le truc pénible au Joug, c'est quand même... Enfin, ouais. Moi, je suis pas fan du Joug personnellement, donc je suis super subjectif sur ça. Mais personnellement, je pense que le plus pratique, c'est quand même Alterac. Hein. Alterac, il y a un grand moyen de se planquer. Enfin, dès lors qu'on a un casseur, du moins, un lanceur de sort, on peut se planquer quelque part et en tuer au moins 5-6. Bon, moi, je suis un petit peu amer sur ce au fait, puisqu'à chaque fois, chaque année, je réussis à peine à faire quelque chose comme 6 VH, tu vois. Donc, après,
Ben moi,
j'abandonne.
j'ai très galéré à le faire. J'ai dû le faire en 6-10 par bataille. Alors, ça m'énervait. J'ai fait un joug, j'en ai eu ouais, une 30, 30, quasiment 40, quoi.
Non, moi je. C'est le Hoffait qui me manque en fait. Il me semble que c'est le seul Hoffait qui me manque pour être joyeux. Et à chaque fois je me dis, j'essaie un petit peu. Je pense que d'ici 5-6 ans, j'arriverai à avoir le Hoffait.
Ben moi, j'ai réussi à l'avoir alors qu'au tout départ, je n'avais que le cadeau au pied du sapin. C'était le seul truc que j'avais. Et ben, j'ai réussi à tout faire là.
Ah oui, bah moi c'était l'inverse. J'avais tout fait l'année dernière. Il me manquait que celui-là et j'ai pas terminé. Donc.
Pour le coup, c'est vraiment pas de chance là.
Bon, c'est un manque de motivation, je pense aussi. Mais bon, c'est pas grave. J'essaierai de le terminer l'année prochaine. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé donc en décembre et début janvier. Donc l'avancée de l'Estadelle à la Couronne de Glace qui se fait petit à petit, donc c'est pas terminé. Et on espère avoir accès à la cinématique de fin pour voir comment ça se termine, un peu le dénouement, puisqu'on a bien vu qu'il y avait quand même pas mal de lore, etc. Donc on se demande, même si on se doute, ce qui va se passer. Et ça devrait arriver dans le prochain patch, dans le
Vu
prochain
que
petit patch.
c'est la fin de, bah, de l'extension, donc enfin, normalement, à moins qu'il fasse comme dans la
Eh ben,
deuxième avec Kick.
on en reparlera peut-être un peu après, mais je, enfin, moi j'ai bien peur que ça, il va se repasser ça, hein, parce que là, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on y arrive. Patch 3.3, nos réactions sur 4 points précis, sur les 4 points les plus importants de la 3.3. Tout d'abord, le point malheureusement qu'on a le moins creusé, mais souvenez-vous. Souvenez-vous quand même de nos bonnes résolutions, hein. Donc bon, ça devrait se résoudre d'ici peut-être peu, mais le point qu'on connaît le moins, c'est la citadelle de la couronne de glace. Florent, tu t'es un petit peu intéressé à l'avancée des autres guildes ou pas? Dans ce raid, pardon.
J'ai eu quelques bribes par des personnes, mais pour ma part, je me suis pas trop intéressé vu que ça me touche pas du tout pour le
Ouais.
coup.
Bah pareil pour moi là, donc j'ai même pas mis un doigt dans cette citadelle. Alors évidemment, on va encore se faire huer, etc. On est vraiment évidemment désolé. Moi, ce que j'en avais vu, le nombre de vidéos assez important que j'en ai vu, parce que je m'informe comme ça, montre quand même une certaine difficulté à partir de Sorcro. Trogne pu et puis l'entraille, bon, ça a l'air de passer quand même pour les meilleurs guilds. Et mon boss préféré, zut, j'ai évidemment oublié son nom, le professeur.
Putricide.
Putricide, j'allais dire Putridus. Putricide, qui a l'air bien bien fun quand même avec les transformations aux zombies, etc. Donc bon, ça a l'air d'être un bon petit raid. La difficulté a l'air d'être assez bonne en mode normal. J'attends de voir le mode héroïque donc qui sera débloqué dès lors que les trois ailes auront été débloquées et que donc pour débloquer le mode héroïque, il faut avoir tué Arthas en mode normal. Donc pour le moment, on n'a pas encore d'infos sur ça. Mais vu la difficulté du mode normal. Je serais intéressé de voir comment fonctionne le mode héroïque. Faudrait noter aussi tout de même qu'il va y avoir un buff qui va bientôt être ajouté. Il le disait dans le question-réponse Twitter. D'ailleurs, je crois qu'ils en avaient parlé aussi autre part sur les forums US. Un buff qui va être ajouté, qu'on peut mettre ou qu'on peut ne pas mettre, qui augmente les dégâts de 5%, la vie de 5% et tous les soins de 5%. Donc, ça va bientôt être ajouté à la citadelle. Dans le prochain petit patch aussi me semble-t-il et ça devrait être, ce buff devrait s'augmenter de plus en plus pour intensifier tout ça pour intensifier Mistadel oui.
Bah, le fait que donc on a un maximum de try, c'est ça, je pense que c'est vraiment une augmentation grande de la difficulté parce que, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure ils vont l'augmenter, c'est que ils simplifient via ce système et via le système du buff pour les plus petites guildes puissent accéder au contenu haut niveau, ce qu'ils font depuis bah, depuis toujours en fait.
Et c'est clair, moi je trouve, enfin, je trouve ce système très très intelligent. Après, il y a toujours des gens qui disent c'est pour, etc. C'est pour juste faire durer le contenu. Je suis pas d'accord, je trouve que c'est intéressant de proposer aux guildes un combat où voilà, vous avez que 10 essais pour tuer ce boss, pas un de plus cette semaine, et en gros vous devez être au maximum, et c'est pas la guilde qui fera 8 soirs par semaine 8 soirs par semaine qui va donc pouvoir tuer le boss le plus rapidement. Non, là faut réussir à optimiser son raid au moment M, j'ai envie de dire, au temps T du trail. Je crois que ça va être tout pour la citadelle de la couronne de glace. On va donc passer aux salles gelées. Et ça y est, enfin, t'as pu y jouer, Florent, aux salles gelées. Qu'en penses-tu?
Le sel gelé. Alors moi, je trouve que le background de ces trois instances est vraiment bien, enfin, est beaucoup plus recherché par rapport aux anciennes donc instances level 80. Ma préférée quand même la troisième, qui je pense la course poursuite avec Arthas est vraiment génialissime.
C'est excellent.
Et donc bah je trouve qu'elles sont ils sont vraiment très intéressantes. Il y a une réelle difficulté. Même si j'ai quand même, bon, j'ai pas un stuff génialissime, mais bon, pour ceux qui ont fait un peu de raid 10 et 25, je pense quand même qu'on ne peut pas y aller, enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas y aller en arrivant direct 80.
Certainement pas, non. Enfin, pas si t'es suicidaire, mais...
À part si tu vois, tu ne sers à rien dans le groupe, enfin, je veux dire, voilà, donc le fait est que donc, je pense que même pour ceux donc, qui ne pourront jamais, enfin pas jamais, mais qui pour le moment n'iront jamais à la citadelle de la couronne de glace, ont vraiment un réel challenge dans ce nouvelle mise à jour.
Ouais, ça permet de voir Arthas en plus, tu te dis, waouh, enfin je peux presque combattre Arthas. Au moins je combats les sbires d'Arthas et c'est Asda, c'est Arthas qui me les envoie. En gros c'est un petit peu ça. Donc c'est très très sympa pour ceux qui sont un peu plus casual et qui n'ont pas accès à la citadelle à la couronne de glace. J'ai trouvé cette instance évidemment géniale, j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, je vais pas revenir sur mon avis. Je la trouve toujours très très sympa. Autre point important de la 3.3, le système de recherche de groupe. L'as-tu utilisé, Florent? Je suppose que oui, comme tout le monde.
Oui, j'ai utilisé évidemment, bah, comme tout le monde, beaucoup, surtout la plupart du temps le aléatoire, vu que il n'y a pas gros changement entre les deux, sauf que bah, déjà pour faire son instance héroïque de la journée, on est obligé donc de le faire en aléatoire, ce qui n'est pas embêtant parce que la plupart du temps on trouve un groupe très facilement. Je trouve que le temps de recherche de groupe est assez faible, ce qui fait que ce système marche, je trouve, très très bien.
Ouais, c'est clair. Système qui fonctionne bien. Enfin, si j'avais une toute petite critique à faire, mais c'est même pas une critique puisque c'est simplement dû à la population des serveurs. C'est juste que, enfin, j'ai demandé à plusieurs amis qui sont heal et enfin des soigneurs et des tankers. Évidemment, eux, ils m'ont dit, bah, je trouve un vraiment, je clique sur le bouton et dans les 30 secondes, je trouve un groupe, quoi.
Sans
Alors
blague.
évidemment, voilà. Mais enfin, moi, je suis DPS. Effectivement, j'attends en général un peu plus longtemps, mais ça reste
Normal, moi aussi.
ça reste très raisonnable. Comme attente. Et ce système, on vous le rappelle aussi, parce que tu parlais il y a quelques minutes des salles gelées et qu'on pouvait pas y arriver tout frais niveau 80. Et si quelqu'un qui est tout frais niveau 80 s'inscrit dans le donjon aléatoire, il a très peu de chances d'être envoyé dans les salles gelées, puisqu'il y a un système aussi qui scanne le niveau des objets que vous portez, qui permet, et vos faits, etc., toutes les instances que vous avez faites, pour vous envoyer dans un donjon qui est adapté à votre niveau. Donc, oui.
Et aussi, il y a donc des systèmes. Bah déjà, le fait que il y a des petits cadenas, comme si on vu qu'on doit les faire dans l'ordre. Déjà, dans tous les cas, il y a ce problème-là. Et aussi, il y a un truc qui est très bien dans ce système, qui avant, c'était un gros problème, je trouve. C'est le fait que quand il y a quelqu'un qui quitte le groupe, alors qu'on en est, je ne sais pas, au deuxième boss, et donc sur les trois, bah on est embêté. Vu qu'on a une instance qui est commencée, on ne sait pas comment faire. Avec le système on rejoint donc le système de recherche de groupe. Quelqu'un peut rejoindre notre groupe sans griller son idée. Et donc ça, c'est vraiment génial pour finir ces instances voilà, sans griller l'idée en plus de l'autre, de la personne qui nous aide.
C'est clair, non, mais ce système fonctionne très très bien. Oui, avant, s'il suffisait qu'il y ait une personne qui parte, il fallait repartir dans une capitale, refaire des
Voilà.
annonces, etc. Puis trouver quelqu'un qui voulait simplement faire le dernier boss, à part si c'était l'instance du jour, fallait être motivé, quoi, donc bon.
Et Blizzard est très content de ce système, si j'ai bien compris,
Ah
parce
oui,
que
ils le disent, hein.
l'algorithme est assez compliqué à faire et que donc il y aurait peu de changements à Cataclysme, je veux dire, sur le système, comment on est pris dans un groupe, parce que ça fonctionne bien et voilà quoi.
En fait, voilà, ils ont dit que ce système fonctionnait tellement bien qu'évidemment, ils allaient, dans leur développement des instances de Cataclysme, le prendre en compte et donc les développer d'une manière un peu différente. Donc, peut-être plus de pierres de foyer, pas de pierres de foyer, pardon, de pierres de rencontre. Enfin, ça, je sais pas, mais. D'ailleurs, il n'y en a plus de pierres de rencontre, j'ai des bêtises là. Je suis en train de dire plus de pierres de rencontre, on en a même plus besoin.
Ben, elles ne servent à rien. S'il y en a,
Bah.
je demande s'il y en a, mais en tout cas, s'il y en a, elles ne servent à rien. Mais j'ai pas fait attention si elles sont toujours là, ouais.
Bah, je suis plus passé devant une instance depuis que ce
Ben,
système
c'est ça le
existe.
problème, en fait, voilà.
Je vérifierai, j'essaierai de me renseigner, mais effectivement, ils ont dit qu'ils allaient développer leur instance en fonction de ce système aussi. Alors, je sais pas ce que ça signifie vraiment, peut-être des instances plus courtes, des instances, des portails d'instances qui seront planqués. Enfin, je vois pas trop de quoi ils parlaient quand ils disaient ça.
J'ai plusieurs inventions chez moi que j'aurai plaisir à vous montrer.
Et enfin, dernier point de la 3.3, la nouvelle interface de suivi des quêtes. Donc, je sais pas si tu as beaucoup de quêtes en cours, me semble-t-il. Il me semble que tu fais le maître des traditions en ce moment, non?
Ça m'arrive, ouais, quand j'ai à mes instants perdus, je me dis, allez, je vais les faire. Mais bah, non, j'ai eu réussi à les. J'ai vu le système quand même, parce que bon, j'ai aussi pas qu'un main, j'ai un personnage que je suis en train de monter. Qui doit être 76 dans ce point-là, je ne sais plus. Donc, évidemment, j'ai pu voir ce système qui est pas mal, mais vu que la plupart du temps je connais les quêtes, ça me sert pas tant que ça en fait.
En fait, moi, la seule petite critique, pardon, la seule petite critique que je ferais, c'est que, enfin, je trouve cette interface enfin, vraiment moins ergonomique par rapport à des add-ons comme Quest Helper. Bon, personnellement, vu que moi aussi je connais les quêtes parce que je suis maître des traditions, etc., j'ai plus vraiment besoin de Quest Helper, donc je me permets d'utiliser l'interface de suivi de quête. Mais par exemple, elle te montre pas le petit chemin qu'il faut faire. Les zones parfois sont un petit peu floues dans lesquelles il te dit qu'il y a les monstres à tuer. Comment mettre une quête en première, etc., dans sa liste de quêtes à faire. On n'a pas le chemin à faire, donc parfois on est paumé, etc. Je la trouve un petit peu moins ergonomique. Mais bon, c'est quand même très pratique, c'est plutôt léger. Ça alourdit pas le jeu, donc. Personnellement, j'utilise voilà quand j'ai quelques quêtes à faire, mais c'est assez rare en ce moment. Et bah, c'est à peu près tout pour les grosses modifications de la 3.3. Et donc on va passer, bah, en fait ce mois-ci, il n'y a pratiquement pas en fait de news sur le prochain patch, puisque le 3.4 ne devrait presque pas exister. On vous a dit qu'on pense qu'il existera, mais bon. Pas d'autres infos pour le moment, donc on passe aux news de Cataclysme. Et évidemment, ça va spoiler. Donc, on va aussi passer les news sur Twitter dans le spoil. Donc, si vous voulez rien entendre sur Cataclysme, et ben, je vous invite à passer à la minute 59 et 0 secondes. Donc, si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez entendre les infos qu'on a réussi à glaner sur Cataclysme. Et première information, c'est une information qui concerne une interview qui a été donnée à Gamekult. Donc c'est Jean-Claude Guinozzi, vice-président d'Activision Blizzard pour l'Europe du Sud, qui a dit espérer pouvoir vendre Cataclysme en fin d'année. Donc en fin d'année 2010. Par contre, évidemment, il n'a pas affirmé que ça allait être ça, il a dit qu'il espérait pouvoir vendre Cataclysme. Et là, ça nous amène donc sur le sujet qu'on avait abordé tout à l'heure. Est-ce qu'on va avoir, comme pour Burning Crusade, un 3.4 ou pas? Florent, quel est ton avis sur ça?
Alors, moi, je pense qu'il y en aura un, parce que ils ont dit que la plupart du temps, Blizzard, donc ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans cette boîte, c'est qu'ils vont sortir le jeu quand ils pensent qu'il est prêt, et pas parce qu'ils ont dit qu'il allait sortir tel jour. Donc, ce qui fait qu'ils vont plus facilement le retarder qu'une autre boîte. Et en même temps, ça fait durer le suspense, comme on dirait, l'attente. Et donc, bah, je pense qu'il y aura un 3.4, et donc Cataclysme sortirait peut-être fin d'année, voire début d'année, comme d'habitude, quoi. Vu qu'en plus, il faut penser qu'en plus de Cataclysme, ils ont StarCraft 2, qui lui, on est sûr qu'il est en 2010. Donc,
On l'attend depuis longtemps aussi, Warcraft 2, donc on est content qu'il sorte.
oui, bon, certes, mais au moins, bon, bah, ça ferait déjà un jeu de sûr pour 2010, mais ouais, Cataclysme, il est vu qu'il est entre les deux, On ne sait pas si ça va être fin d'année ou début d'année 2011.
Voilà, est-ce qu'ils vont faire comme pour The Burning Crusade? Ils vont le sortir juste en début d'année? Est-ce qu'ils vont faire comme pour Wrath of the Lich King? Ils vont le sortir juste avant, enfin, non, il est sorti plutôt bien avant quand même Wrath of the Lich King, les fêtes de Noël. On ne sait pas trop, mais enfin, moi surtout le trou, c'est-à-dire on est en janvier, ça veut dire qu'il y a encore plus de 10 mois en gros, quasiment. 10 mois avant Cataclysme, 10 mois à faire la citadelle à la couronne de glace, je vois ça. Enfin, je vois que enfin, ça comme impossible quoi.
Il faut obligatoirement qu'il sorte quelque chose, sinon l'attente va être telle que les joueurs ils vont lâcher l'affaire et je pense ils pourront perdre des joueurs à cause de ça. S'ils mettent pas un contenu entre les deux,
c'est clair, mais
ça va. Voilà.
Ça m'attriste quand même que ça fasse deux extensions de suite, qu'ils n'arrivent pas à gérer leur temps de développement. Enfin, Burning Crusade, on pouvait se dire, bon, c'est leur première extension, ils s'attendaient peut-être à ce que ils développent plus rapidement Wrath of the Lich King. Là, ça fait. Au début, enfin, tu te rappelles, il y a quelques années, ils disaient, on souhaite sortir en gros une extension tous les ans, quoi.
Oui.
Là, c'est pas gagné, hein. En même temps, c'est vrai qu'à chaque extension, ils nous sortent un contenu énorme. Mais donc on n'est pas non plus, on se dit pas bon c'est une extension de supermarché en rap quoi. Mais
ce qui est sûr c'est que c'est une boîte, ils ont bah ils ont eux ils peuvent attendre janvier ou enfin le premier trimestre 2011 parce que ils savent qu'ils auront des joueurs qui vont obligatoirement acheter, ils sont pas obligés de le mettre à Noël pour avoir plus de personnes à lâcher. Je pense ils savent que derrière ils ont une communauté qui est prête à mettre le prix et à l'acheter quoi. Bon, ça
c'est
veut dire
clair, c'est clair, mais même et de manière commerciale, enfin d'un point de vue commercial et financier, ça reste quand même les fêtes de Noël un très très bon moyen de gagner plus d'argent puisque enfin ça c'est mathématique, hein. Ta petite grand-mère qui va t'acheter ton extension de ton jeu favori, ça va aider quoi.
C'est sûr.
Voilà, donc. Enfin, moi je vois ça impossible qu'il n'y ait pas de 3.4 et ça me gêne très franchement de me dire, bah voilà, Arthas c'est pas le dernier boss de Wrath of the Lich King.
Wait and see, hein, comme on dit.
Ouais, enfin, j'espère qu'on va pas trop wait et qu'on va assez vite si quand même.
C'est sûr.
On passe à la suite de Cataclysme, des infos de Cataclysme. Et il y a eu une rumeur assez étrange qui est passée sur quelques sites comme quoi l'alpha de Cataclysme. Avait débuté. Alors c'était, je crois que c'était le 12 janvier. Enfin, il disait que ça allait débuter
12 janvier,
le 12 janvier.
C'est ça.
C'est ça, hein. Voilà. Et je vois ça comme très peu probable. Si l'alpha avait débuté, je pense qu'on aurait été mis au courant. Et je pense même qu'il y aura peut-être pas d'alpha pour Cataclysme. Hein. Vu que je pense, ils vont essayer de le sortir. Enfin, très franchement, je pense qu'ils vont essayer de le sortir le plus tôt possible. Hein. Je suis un peu en désaccord avec toi sur ça. Je pense pas qu'ils vont essayer de prendre leur temps comme d'habitude parce que là vraiment il y aura un trou trop énorme avec Wrath of the Lich King sinon. Donc je pense qu'ils vont essayer entre guillemets de se presser, pas de bâcler leur travail, mais ils vont essayer quand même de mettre les bouchées doubles et je pense qu'ils vont scratcher l'alpha parce qu'apparemment, enfin à ce qu'on en a entendu, l'alpha n'est pas est vraiment très très peu joué. L'alpha c'est la Friends and Family.
Voilà, c'est ça, c'est les familles et les amis de ceux qui bossent chez Blizzard. Donc.
Voilà, donc c'est peu de personnes. Je pense qu'ils vont directement passer à la bêta. Donc, si vous recevez des mails ou des messages qui vous disent « Voici une clé pour l'alpha de Cataclysme », mettez ça directement à la poubelle et passez à autre chose. Autre petite info de Cataclysme, c'est dans un message sur les forums des Américains, US, que les développeurs ont dit qu'il n'y aurait pas de capital neutre pour Cataclysme. Donc, on ne va pas avoir de Shatra ni de Dalaran à Cataclysme. C'est pas très étonnant, vu que c'est en fait Cataclysme, une refonte surtout des anciens continents, et donc qu'on ira tout simplement.
Pardon. Et des capitales aussi, ouais. Parce que, par exemple, on a vu à la BlizzCon d'une image de la nouvelle Undercity, par exemple,
oui.
qui était complètement changée, et qu'on voyait les bâtiments donc, sortir, qui était un peu à la style d'Alaran, en fait.
Exactement, il y a aussi Orgrimmar, on sait que Orgrimmar va changer de main, c'est Garrosh qui va. Oui. Contrôler les forces de la Horde, ce qui va poser quelques petits soucis, on en parlera juste après, je pense, on verra. Donc, pas de capital neutre, et en même temps, on se dit capital neutre quand même, parce qu'évidemment, si on veut avoir accès à Forgefer, à Stormwind, à Orgrimmar, enfin, au capital de l'ancien monde, le plus simple c'est de mettre sa pierre de foyer à une capitale, soit Shatra, soit Dalaran, puisque dans ces deux capitales, il y a des portails. Et d'ailleurs plutôt Dalaran puisqu'il y a un portail vers Shattra. Donc est-ce que Dalaran restera la capitale de Cataclysme, ou est-ce qu'ils vont prévoir le truc, ce que je pense, et ils vont mettre des portails dans toutes les capitales de l'Ancien Monde? Je sais pas trop. Et en même temps, je me dis, s'ils mettent des portails dans toutes les capitales de l'Ancien Monde, c'est quand même vachement ballot pour les mages, etc. Parce que voilà, qu'on aurait pu vraiment de portails pour nous. Je me pose quelques petites questions sur ça. En tout cas, ce qui est certain, pas de capitaine neutre en plus. Dans un message des forums américains, des forums US, les développeurs ont dit, hein,
Écho, écho,
écho, ouais,
écho.
on dirait, hein, tout simplement, alors je vous cite la citation, I thought we were removing gnomes in Cataclysm. I'll have to double check my sources. En gros, c'est Ghostcrawler, me semble-t-il, qui a dit ça. Je croyais que nous allions supprimer les gnomes dans Cataclysme, je vais devoir revérifier mes sources. Donc voilà, on vous annonce officiellement qu'il n'y aura pas de gnomes dans Cataclysme. Donc tous ceux qui ont des niveaux 80, je pense qu'on peut clairement dire que ces personnages vont être supprimés.
Oui. En plus, connaissant Ghostcrawler, on sait que ces informations sont toujours véridiques.
Mais toujours, toujours
Toujours.
véridique, les 32 boss de la citadelle de la couronne de glace étaient
Voilà,
vrais.
ça a été vérifié.
Tout a été vérifié, donc voilà, plus de gnomes, fallait être dans la horde. C'est un allianceux qui vous dit ça.
Et Blizzard va devenir une filière du cirque Zapata.
Zapata, d'ici peu d'ailleurs, voilà. Il y aura des poneys roses. On passe à autre chose, parce que ça, je pense qu'on part un peu trop là, un peu trop loin. C'est plus, enfin, c'est à moitié en rapport au Cataclysme, c'était il y a quelques jours, le question-réponse sur Twitter, version 2. C'était la deuxième fois que Blizzard faisait ça. Tout simplement.
Le
Pardon?
premier a très bien marché, ouais. Donc, et Twitter, c'est Twitter, hein.
Twitter, c'est. Voilà, c'est for the wind. For the wind. Pour le vent, bien sûr, oui. For the wind. Donc, ils avaient fait ça aussi, d'ailleurs, sur Facebook, un petit peu. Ils avaient demandé dans les commentaires ce que les gens pensaient. Mais ça marche beaucoup mieux sur Twitter. Donc, on vous a résumé, en gros, les meilleures questions-réponses. Et on va commencer par celles qui concernent World of Warcraft. Pas tellement, en même temps, un peu tout. En fait, ils n'ont pas précisé si ça, à chaque fois, c'était en rapport avec Cataclysme ou si c'était en rapport avec un patch qui pourrait arriver avant Cataclysme. Donc, les infos qu'on vous
C'est des
donne,
projets, quoi.
voilà, c'est des projets, c'est des idées qu'ils ont un petit peu, qu'ils comptent mettre en place d'ici, ben on ne sait pas quand. Donc, première info, ce sont les maisons de guildes. Donc, les maisons de guildes, ils ont annoncé que ça serait pas pour tout de suite et ça serait certainement pas dans un futur proche, donc certainement pas, je pense, pour Cataclysme. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de mettre en place des espaces privés qui videraient les capitales, toutes les capitales, et donc où toutes les guildes pourraient se retrouver. Ok, les guildes pourraient se retrouver dans un endroit, mais en même temps ça séparait tout le monde, et ça va un petit peu à l'encontre du système de World of Warcraft. Donc pas pour tout de suite, par contre ils n'ont pas supprimé l'idée du tout, mais il va falloir attendre un petit peu. Deuxième question-réponse, ça concerne les banques personnelles. Donc la banque, vous savez que vous avez des banques personnelles pour chaque personnage en ce moment. Ils ont annoncé qu'ils aimeraient effectivement, ou du moins que c'était dans les cartons, peut-être de partager cette banque personnelle avec les personnages, avec tous vos personnages du royaume. Donc ça peut être intéressant. Ça
Oui, parce que
éviterait, oui.
ça éviterait bon, quoi, les alts qui ne servent pas à ça, quoi. Donc c'est vraiment parce qu'ils se rendent compte que les joueurs actuellement le font déjà, créer des persos qui leur servent juste pour la banque.
C'est clair, mais je vois assez mal par contre. Enfin, t'imagines quand même, imagine j'ai 10 personnages. Tu imagines la taille de la banque à l'écran. Je veux dire, tu as. Enfin, je suppose qu'il ferait ça sous forme un peu comme l'interface de banque de guilde. Mais bon, ça commence à faire des grandes, grandes banques quand même. Donc peut-être, je sais pas, sous forme d'un truc à acheter pour
Voilà.
partager sa banque.
Comme les clés, ça s'agrandit au fur et à mesure, même s'il y a un maximum possible.
Ouais, je sais pas. Enfin, c'est une très très bonne idée, c'est clair, parce que ça évite de devoir envoyer, aller prendre des objets, les envoyer par courrier, des courriers qui sont complètement inutiles. Tout que ça coûte rien, c'est juste pénible. Donc, c'est une idée qu'ils ont aussi.
Et là, la question que je me pose,
Oui.
c'est est-ce que ça sera disponible entre factions?
Ouf.
Ça, alors là, parce que bon,
Je pense.
sur un même serveur, c'est sur un même royaume, c'est très très vague, quoi. Ça peut être donc
Je pense très
inter-faction ou
franchement
pas.
que non.
Mais je pense que ouais, c'est plutôt non.
Bah,
Mais.
disons qu'aujourd'hui, le seul moyen d'envoyer un objet d'un d'un tes personnages, par exemple Alliance, à un de tes personnages Horde, c'est de passer par
Ouais,
un
je vois.
hôtel des ventes, voilà, un hôtel des ventes gobelin, et être très rapide pour pas te le faire shipper par quelqu'un. Enfin bon, en général, tu mets l'objet à 2000 PO et ça passe. Hein. Mais effectivement, non, je pense pas qu'ils vont effacer à ce point-là les différences entre la Horde et l'Alliance. Enfin, moi, ça serait, je pense que ça serait une hérésie. Donc, je le dis clairement, je serais un peu contre. Autre question-réponse, les pistolets pour les chasseurs. Et des pistolets qui seraient des armes au corps à corps. C'est vrai que les chasseurs avec des grosses épées et des grosses haches, ça sert pas. Enfin, c'est pas vraiment très très RP quoi. Donc, l'idée de pistolet, c'est vrai que ça serait. Enfin, ils trouvent ça intéressant, pourquoi pas.
Ils ont déjà des fusils, donc bon, pourquoi pas des
Voilà,
pistolets, hein.
c'est pas du tout à l'encontre du lore de World of Warcraft. Moi je trouve ça, oui, bon, ça serait. Je vais pas dire que ça serait le changement ultime pour moi. Et en même temps, je me dis, s'ils mettent des pistolets et que c'est que pour les chasseurs, ça. Disons que c'est un peu difficile de mettre une arme qui est que pour une classe, quoi.
C'est bête, hein, surtout qu'on pourra pas faire les pirates avec les petits pistolets, ça pourrait être marrant, moi je dis.
Non, si c'est pour plusieurs classes, ok, mais en même temps, les pistolets pour d'autres classes, je vois pas trop le. Voilà, pour le coup, ça va un petit peu contre le lore, je trouve.
Ah, peut-être les ingénieurs ou.
Ouais, peut-être les ingénieurs, mais. Ouais, c'est vrai, les ingénieurs, là je suis d'accord. Mais c'est un peu triste quand même de bloquer ça que pour les ingénieurs. Enfin bref, c'est. Moi je trouve que c'est plutôt des points de vue techniques qui bloquent, je pense, les développeurs sur ce genre de truc-là. Parce que je pense que l'idée des pistolets pour chasseurs, c'est très très fun, mais après. Faut voir comment le faire, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué. Autre news, les tabards et les ensembles d'armure devraient être. Enfin, quand je dis devraient être, attention, hein, c'est vraiment que des projets qu'ils ont, hein, donc c'est aucun patch prévu, etc. Les tabards et les ensembles d'armure qui seraient rangés comme les titres et les compagnons, tout simplement. Donc, comme si vous aviez des garde-robes. L'idée avait déjà été lancée quand on avait parlé du système. Comment on s'appelle déjà? D'armure, là, enfin. Ah!
Mais le oui
Le
le
management,
le,
enfin
le oui des sets d'armure
voilà l'equipment manager, donc je sais plus, voilà, enfin on avait parlé de ça et donc effectivement les tabards surtout. Moi déjà dès lors qu'on me met des tabards dans un onglet, je serais très heureux parce que en général j'achète mon tabard, hop je le mets, hop je le revends puisque ça prend trop de place. Enfin du moins pour ceux qui sont achetables, hein. Pour ceux qui ont été gagnés, je les garde précieusement dans ma banque.
Moi, je garde tout à la banque, donc ce qui fait que j'en ai 8 ou 10 qui sont dans des sacs.
Ça serait tellement bien d'avoir une banque personnelle partagée avec tous tes personnages pour ça. Donc voilà, petite info comme ça. Alors là, par contre, c'est des infos qui seraient plus pour Cataclysme maintenant, enfin du moins on pense. Tout d'abord, que ils devraient revoir certains donjons bas niveau pour les rendre plus abordables, ou du moins plus en adéquation avec la vision des donjons qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire les donjons un peu plus courts. Un peu plus rapide à faire. Donc on pense par exemple à Marodon. Alors je sais pas si vous avez fait Marodon récemment. Je l'avais fait il y a pas très très longtemps pour le Hophée et j'ai juste été mais c'était la première fois que je le faisais. Hein. Je sais pas si tu l'as fait il y a très longtemps, Florent,
Oui,
toi.
faut enlever tout ce qui est poison, pistolet, corde, quand vous faites Malorodon, sinon là c'est bon, vous êtes foutu.
Non mais là mais
C'est très dangereux.
Marodon quoi. Non mais j'étais paumé. C'est un labyrinthe cette instance.
Oui, en plus, il y a plusieurs entrées et tout. En plus, si on arrive avec le sceptre, c'est encore différent.
Mais le sceptre n'existe, enfin il existe toujours, mais on n'en a plus besoin pour rentrer dans la seconde entrée. Mais il y a plein de ponts partout. Si tu tombes d'un pont, faut remonter, t'es perdu. Enfin bref, une instance. J'aime pas cette instance, je le cache pas. Mais donc ils comptent revoir certains donjons bas niveau. Ils ont pas dit que ça allait être tous les donjons, mais en tout cas quelques-uns. Toujours dans les news comme ça en vrac un petit peu du question-réponse Twitter, les raids contre les villes. Donc les développeurs ont dit qu'ils étaient friands ou du moins qu'ils aimaient bien qu'il y ait des raids contre les chefs des villes adverses, mais par contre ce que ça générait un peu trop de lag pour eux. C'est-à-dire par exemple vous êtes pauvre niveau 10 ou alors vous êtes avec votre mule ou alors vous avez strictement rien à faire des ennemis dans votre capitale et que vous avez 150 personnes qui arrivent pour dézinguer votre chef et que ça vous fait laguer à mort. Là, ils sont pas trop trop pour. Et ils ont avancé qu'ils avaient quelques idées pour Cataclysme pour ça. Alors, je me demande peut-être un petit peu le même fonctionnement que Comment ça s'appelle? Pour le jeu, non? Tu sais, quand t'es dans la zone, si tu veux rentrer dans le combat ou pas.
Bah, dans tous les cas, tu peux rentrer juste en faisant. Parce que je suis en train de demander. Bah, tu es en train de faire juste la CJ et c'est bon, tu rentres en combat. Mais.
Oui, mais aujourd'hui le problème c'est que les gens qui n'ont pas envie de combattre, ils sont quand même affectés par ça. Et je pense que c'est le principal
Oui.
problème pour les développeurs, quoi. C'est qu'ils se disent c'est quand même ballot que t'es à laguer parce que d'autres personnes font du JCJ.
Mais ils peuvent pas faire une capitale instanciée juste pour ceux qui veulent attaquer. Ou défendre la ville, enfin.
Bah moi je trouverais ça intéressant. Enfin je sais pas du tout leur idée, hein, mais moi je pense que le coup de la capitale instanciée c'est...
Bah, ça serait bizarre, je veux dire, enfin.
Et dès lors que t'as un Horde qui est dans ta capitale instanciée, et bah hop, t'as un message si t'es par exemple si je suis dans Forgefer, je suis Allianceux, et qu'il y a des Horde qui rentrent dans ma capitale, et bah j'ai un message qui s'affiche, voulez-vous participer à la bataille, tu vois? Ça pourrait limite être plus épique, hein, s'ils arrivaient, imagine, je sais pas, s'ils arrivaient à faire des events entre guillemets, c'est-à-dire si t'es un Horde et que tu vas dans la capitale adverse sous forme d'instance, et que t'es par exemple des vagues de gardes, etc., et que tu puisses en plus que les ennemis. Enfin, plutôt que les Allianceux puissent eux aussi rentrer dans cette instance, je trouverais ça génial. Ça ferait presque une instance à
Un
sens
vrai champ de
unique.
bataille là.
Ouais, c'est une instance à sens unique, un petit peu, avec une instance. Enfin, je trouverais ça excellent, moi. Mais bon, là, en termes de développement, on parle de choses énormes, et ça se
Oui, voilà.
trouve, je me fourvoie totalement sur ça. Mais je partage une idée que j'aimerais bien voir exister, car je la trouve très très
Utopique.
sympa. Ouais, je trouverais ça épique, quoi. Non, je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, t'as des gardes qui se baladent dans la capitale, et dès lors que tu attaques le boss, il y a juste des gardes qui pop un peu partout, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Alors que s'il y avait même presque des mini-boss, enfin les mini-boss, c'est peut-être un peu trop, quoi, mais juste un petit peu plus de script, moi je trouverais ça sympa. Enfin bref, passons à autre chose. Les objets héritage. Donc les objets héritage seront à Cataclysme, ça a été annoncé. Disponible directement pour les gobelins et les worgen. Donc si vous avez quelques objets héritage, enfin si vous avez acheté quelques objets héritage dans Wrath of the Lich King, vous pourrez directement les envoyer à votre gobelin ou à votre worgen pour le faire monter plus rapidement en expérience. Par contre, ils ont dit que le système de parrainage ne fonctionnera peut-être pas au début pour les gobelins et les worgen, ça serait peut-être un petit peu trop cheaté entre guillemets, et que le changement de race serait probablement impossible au début aussi de Cataclysme. Tout simplement, bah, je pense aussi que c'est pour pas que les gens trichent dans le prompt du royaume.
Oui,
Et
c'est pas étonnant, oui.
puis aussi, ça serait, moi je trouverais ça un peu, ouais, pas terrible de voir plein de worgen déjà niveau 80 directement, parce que grâce à un changement de faction. Dans toujours ce question-réponse, on a aussi appris que le système d'emblème allait être simplifié à Cataclysme. Et là, on s'en plaint pas du tout, parce que aujourd'hui quand même le système d'emblème, il est super compliqué. Hein.
Il est super fouillis. C'est pas encore ça. On sent que ouais, par rapport au système actuel, il voit que c'est un peu le bordel
Bah, disons
et
que ça a
que.
été, il y a eu les balbutiements du système d'insigne à Burning Crusade. Là, il y a eu à Wrath of the Lich King, ça a vraiment grandi et on sent que l'idée a vraiment abouti à quelque chose.
Il y a des tests. Enfin, ils essayent certains trucs, ils voient si ça marche. Donc bon, évidemment, si ça marche pas, bah, ils reviennent en arrière et ils recommencent.
Ouais, c'est clair. Mais j'aimerais. Enfin là, on voit que ça a vraiment avancé. Par contre, il y a des trucs qui sont encore pas terribles. Comme, je sais pas, là, on a eu combien d'insignes, combien de types d'insignes? On a les. Je crois qu'on en a 5 quasiment, non? 4 ou 5?
Oui, il change quasiment tout. Enfin, j'ai l'impression qu'il change quasiment tout le temps, en fait. Moi, je.
Bah,
C'est.
c'est normal parce qu'en fait. Enfin. En même temps, moi j'aurais tendance à dire ça serait tellement bien qu'on ait un seul type d'insigne et que nos insignes précédents soient à chaque fois transformés dans les nouveaux insignes. Mais en même temps, il suffit que tu te prévoies 500 insignes pour la mise à jour et hop, t'as tes 500 insignes, paf, tu passes à la mise à jour suivante et tu as 500 nouveaux insignes qui te permettent d'acheter quasiment tout directement. Donc peut-être une idée comme ça en l'air, le fait que les insignes soient remis à zéro à chaque mise à jour, non? Tu trouverais pas ça...
Ça ferait vraiment voilà ça non je pense je sais pas trop comment mais là, parce que là le système là je vois pas trop comment il pourrait faire en fait donc bon
Bah, tout ça, enfin moi, à chaque fois j'arrive avec mes idées en disant oh, je trouverais ça super simple, mais j'imagine que c'est pas du tout simple. Mais tout simplement, l'idée que par exemple là on avait des insignes d'héroïsme, des emblèmes d'héroïsme, avec les emblèmes d'héroïsme, on passe aux emblèmes de triomphe, enfin pardon, aux emblèmes de Valiance. Oh là là, j'ai complètement oublié les noms des emblèmes maintenant. Du Vaillant. Ouais, bon. On va faire Triomphe et Frost, donc de givre. On a les emblèmes de Triomphe, tu vois. On passe à la mise à jour suivante. Nos emblèmes sont remis à zéro et paf, on passe directement aux emblèmes de givre, quoi. Ou même, on garde un seul type d'emblème, c'est même plus simple.
Mais le problème de ça, c'est que bah, pour ceux qui avancent, qui arrivent plus tard, par exemple, voilà, tu commences à avoir tes premiers emblèmes, nouvelle mise à jour, paf, tu te fais perdre tous tes emblèmes. Génial, t'es
Non, mais
content.
attends, en même temps, pour acheter un objet, il faut pas des milliers d'emblèmes. En général, c'est 25. Enfin, les premiers trucs, c'est à 25-30 emblèmes, quoi.
Certes, mais je pense pas que le système de réinitialiser, ça soit le meilleur. Et c'est pareil, c'est le problème. S'il mettait toujours le même nom d'emblème et qu'il faisait juste augmenter le nombre d'emblèmes qu'il faut pour un objet, ça serait aussi un peu bordélique parce qu'on arriverait avec 1000 emblèmes dans le sac ou je ne sais quoi. Ça serait aussi fouillis. Donc bon, je ne sais pas trop comment ils peuvent faire.
Moi, je verrais seulement deux types d'emblèmes, deux ou trois types d'emblèmes, tu vois, plutôt deux types d'emblèmes, un peu comme on a aujourd'hui avec les emblèmes de triomphe et les emblèmes de givre. C'est-à-dire les emblèmes de triomphe réservés aux instances héroïques et les emblèmes de givre réservés aux raids. Et tout simplement, bah, on est par exemple à la 4.0, bah, les emblèmes de triomphe permettent d'acheter le T0, les emblèmes de givre permettent d'acheter le T1. On passe à la 4.1, bah, les emblèmes de triomphe vont permettre d'acheter le T1 et les emblèmes de J vont permettre d'acheter le T2, etc., etc. Et ça monte en escalier.
On verra, ouais.
Moi, je trouve ce système. Enfin, après, c'est vrai que bon, évidemment, ça a toujours les problèmes. Là, le reset, etc. Mais bon, j'arrive avec mes concepts tout faits, mais c'est encore un peu fouillis.
On verra ce qu'ils feront donc.
Oui, voilà. Non, non, mais wait and see, comme tu dis. Dans les dernières infos de Twitter qu'on avait pu avoir, on savait que on a eu l'info. Enfin. On s'y attendait, mais le conflit entre l'Alliance et la Horde va enfin, entre guillemets, repéter. Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu une petite accalmie avec Wrath of the Lich King. Hein. On voyait qu'entre Garrosh et Varian, c'était pas super cool. Il y a eu le problème de la Porte de la Désolation, etc. Avec le pauvre petit Bolvar, qui d'ailleurs n'est pas mouru. Mais à Cataclysme, Varian et Garrosh vont vraiment pas du tout s'apprécier. Et ça risque de vraiment éclater entre l'Alliance et la Horde. Un peu plus qu'à Wrath of the Lich King, donc.
Il y avait Thrall et Jaina qui, disons, un peu de chaque côté, dit oh, on se calme.
Mais disons que
Mais là.
Thrall, il a un petit peu un autre boulot maintenant. Il
Oui,
va
voilà.
être le gardien, donc. Enfin, il devrait être le gardien. À chaque fois, on dit il va, mais on n'est pas sûr de tout ça. Et Jaina, bah, va peut-être encore être là pour essayer de pacifier les choses, mais je suis pas sûr qu'elle y arrive.
J'ai fait de mon mieux.
Et enfin, dernière info qu'on a eue pendant ce question-réponse de Twitter, c'est tout simplement, petite dernière info, que les trolls n'auront pas de capital. A fortiori, je suppose que les gnomes n'en auront pas non plus. Donc bon, avec mes espoirs
Ah.
toujours qu'on récupère Gnomeregan,
Bah,
oui.
oui, je crois qu'il y avait un truc où, comme quoi ils allaient peut-être récupérer Xomerigan. Alors,
On
je me rappelle
en avait
plus,
parlé
mais vaguement,
soit
ouais.
l'épisode précédent, soit l'épisode d'avant, oui, en effet. Mais bon, enfin, vu que là on a l'info comme quoi les trolls n'auront pas de capital ni de région à eux tout seuls, mais par contre qu'ils auront. Ça a été annoncé qu'ils auront un petit quelque chose pour eux.
Mais quoi, alors là?
Ouais, voilà. Je sais pas ce qu'ils auront en plus et je me dis que les gnomes, malheureusement, n'auront pas non plus Gnomeregan.
Vont avoir un petit élevage de gnomes juste pour eux en fait.
Oh
C'est
non! Non, non, mais bon. Pas grand-chose donc. Et c'est tout pour ce question-réponse Twitter. Donc là, vous pouvez voir vraiment que ça a été assez riche en informations. Et en fait, on a presque. Enfin, ça me donne l'impression que les développeurs de Blizzard nous cachent pas grand-chose, mais en fait, il faut vraiment leur poser les questions pour qu'ils le disent tout simplement. C'est qu'ils vont pas s'arrêter pour sur les forums dire voilà à quoi on pense en ce moment, voilà à quoi on pense en ce moment. Par contre, dès lors qu'on leur pose la question, bah, ils disent ah ouais, effectivement, on aime bien ça, on est en train de bosser dessus. Et tu dis mais tiens, mais ils bossent vraiment sur tout, enfin tout ce à quoi on pense, qu'entre guillemets, ils sont déjà en train d'y réfléchir.
Il faut poser la bonne question, c'est ça le problème.
Exactement. Donc je pense que ce question-réponse Twitter devrait encore avoir lieu d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Donc en général, c'est annoncé sur les forums et Joe Deep reprend l'information. Et en général, bah, en fait, le problème, si vous êtes français, c'est que il me semble que c'était à 2 h du matin, heure française, ce question-réponse. Donc effectivement, il faut être un petit peu couche-tard pour poser vos questions en anglais si vous voulez qu'on y réponde. Et on termine cette partie news par la partie d'hiver avec les news qui tournent autour un petit peu de World of Warcraft. Et dans cette première news, pardon, cette première news, c'est la mise à jour de l'armurerie. Florent, est-ce que tu peux nous en dire plus?
Donc bien sûr, oui, donc l'armurerie. Donc il y a deux grands types d'armurerie. Donc il y a l'armurerie qu'on connaît tous qui est sur le web, et il y a l'armurerie qui est disponible sur iPhone. Donc il y a eu des changements dans les deux. Alors tout d'abord pour l'armurerie, donc sur le web, tout d'abord on peut maintenant visualiser son personnage en 3D, comme dans le jeu donc. Et nous avons aussi donc des flux RSS des dernières actions qu'on a fait en jeu. Par exemple, bon, pas tout, hein, évidemment, c'est pas il est arrivé dans Hurlevent ou truc comme ça. C'est vous avez done tel boss, vous avez fait tel Ophée, c'est plutôt dans ce côté-là. Ou alors vous avez obtenu tel loot. C'est surtout ces trois grandes choses qu'on trouve dans ce RSS. Voilà.
Ouais, sur le visuel de 3D des persos, d'ailleurs, on peut aussi leur faire faire des actions, je sais pas si t'as vu. Par exemple, danser, acclamer, etc.
Marcher un peu, ouais, bouger pour voir vraiment comment c'est dans le jeu, quoi.
Moi je trouve ça, enfin, je trouve ça excellent, perso. Pour l'iPhone, après, bon, moi je suis pas trop trop touché. Il me semble que t'as un iPhone, toi, non?
Moi j'ai un iPod Touch, donc ça marche donc strictement pareil, parce qu'il faut juste avoir accès à Internet et donc l'armure y marche. Et donc ce qui est en changement dans la version iPhone, donc ce qui nous en sont à la version 1.1.0, donc on peut faire donc trouver mieux sur les objets, c'est-à-dire quand on clique sur un objet, il va nous permettre de voir quels objets sont mieux que celui-là pour
Ouais.
pouvoir donc améliorer nos stuff.
Par rapport à notre classe, etc. Ça fonctionne exactement comme le trouver mieux sur le web.
Voilà, ouais, donc c'est juste que c'est la version iPhone, c'est pas la même système, donc c'est plus long à que ça arrive, les choses comme ça. Et nous avons donc aussi les réputations qui sont disponibles et une meilleure, même dans l'ensemble, une meilleure ergonomie
Ouais, ça a été un peu remanié.
du logiciel. Voilà.
Autre news dans la partie d'hiver, c'est enfin une news dont on vous avait déjà parlé, elle concerne la mosaïque des 50 de World of Warcraft. Donc en ce moment elle est en train de se remplir. Alors je sais plus à combien de cases, je crois qu'on est à 50% quasiment, non?
Je sais
10 000
pas,
photos me semble-t-il.
je sais. Ah non, j'aurais dit qu'on était moins. Moi, j'aurais dit qu'on sur les 20 000, on devait être à 7 000, un truc comme ça.
Ça mérite une vérification en direct live de mon ordinateur. Attention, hop 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 hop. Évidemment, je l'ai pas en lien. Est-ce que tu l'as en favori? Attends, vite, 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 vite.
Non, je vais pas. Mais ce qui est sûr, donc le
Vas-y,
changement,
vas-y,
les
comble.
changements, oui, voilà, les changements, c'est donc on obtient des artworks bonus grâce au fur et à mesure que les gens postent leurs photos et que donc la mosaïque se remplit. Donc par exemple, je sais pas, on a eu une vue d'artiste d'Alaran, enfin d'Alaran qui est enlevée maintenant de sous la coupelle à Alterac. Et qu'est-ce que
Ouais.
ça ressemblait? On voit une sorte de petits morceaux de trucs qui volent et tout, c'est un peu éclaté. On a
Ah,
eu.
Damned, 9 000 photos.
J'avais raison que c'était en
Ah,
dessous de 10 000.
Oui, ah, presque, hein. J'étais pas loin.
Oh, tu sais, les
Bon,
chiffres.
on va
Les
peut-être pas
chiffres, c'est les
détailler
chiffres.
tout ce qui on va peut-être pas détailler tout ce qu'il y avait comme illustration.
Oui, il y en a eu pas mal, oui. Juste, c'est vraiment très vague, que ce soit de cubes d'artistes ou. Mais ces petits trucs qu'on n'a pas encore eu. Des
Ce
trucs.
sont des illustrations, ouais, tout
Ouais, voilà,
simplement, c'est.
que ce soit de personnes de Blizzard ou autres. Et voilà.
Exactement. Ah, excusez-moi si parfois je suis un peu lent à répondre, mais je mange une pizza en même temps. Donc bon, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de m'étouffer ni rien. Oui, pardon?
Shame on
Pas du tout, la pizza c'est très bon. Prochaine news, partie d'hiver, elle concerne Upper Deck, donc je vais te laisser en parler, Florent.
Donc, Hyperdeck, qui est donc le fabricant des cartes à jouer Blizzard, enfin World of Warcraft. Upper Deck nous propose donc un nouveau cadeau en échange des points UDE. Les points UDE, c'est des petites. En fait, on obtient des cartes avec des points qu'on peut donc rajouter à notre compte et ça nous permet après de cumuler donc ces points et d'obtenir des choses.
Dans les boosters, c'est 100, il me semble.
Je
100 points par booster.
ne sais plus combien on obtient, mais donc on obtient quelques-uns à force d'acheter des cartes. Et donc là, nous avons eu un nouveau cadeau qui est donc. Le Landro Pets Box Loot.
Ouais, contre 2000 points UDE.
Et c'est donc ce cadeau, quand on l'ouvre, ça permet en fait d'obtenir donc des pets ou leurs d'autres objets. On peut obtenir par exemple des biscuits pour familier à l'ancienne de Papa Hummel, qui permet donc de grossir son pet. Un objet qui s'appelle Sentier Sérius, qui permet de faire que derrière nos enfin, quand on marche derrière nos pas en fait on voit des fleurs en fait un peu à l'aspect que Illidan, sauf que lui, c'est des flammes, quoi. On a encore le tigre des bagues à sable, qui est en fait un petit tigre, comme on voit dans les supermarchés, les petits trucs avec un ressort pour les petits enfants. Bah là, ouais. C'est pareil, un tigre, peut-être spectral, je ne sais plus.
Spectral, si, si.
Le quatrième, donc, c'est le marchand d'âmes éthérien, qui lui est vraiment très classe, je trouve.
Ses bonus aussi sont classe, hein, parce qu'il offre.
Oui, aussi, oui. En fait, donc, c'est un familier qui permet, en fait, quand un monstre meurt, il va lui semble de prendre son énergie pour éviter qu'il va je ne sais où, et il va créer un objet, je ne sais plus comment il s'appelle.
Ce sont des sortes de boules d'énergie, enfin c'est une nouvelle
boule d'énergie éthérienne, un truc comme ça, qui nous permet après à lui acheter des objets
qui sont alors soit temporaires. Il y en a certains qui sont temporaires, enfin ça ne vous donne pas des bonus énormes, mais ça donne des, par exemple je crois qu'il me semble il y a l'ensemble éthérien pour ressembler à une sorte d'éthérien. Il y a aussi quelques petits objets en plus qui vous offrent un petit bonus, mais un petit bonus seulement esthétique ou etc. Voilà. Il y en a deux autres, des objets.
Il en reste deux, donc il y a le cerf-volant dragon, qu'on connaît quand même bien. Enfin, on a vu des cerfs-volants pareils. Donc, c'est un cerf-volant classique qu'on tient et qui, des fois, la foudre qui tombe dessus. Évidemment, c'est un cerf-volant.
Et c'est un mini-pet aussi, un compagnon.
Et voilà, donc. Et nous avons le dernier qui est donc Bananas, qui est donc un chimpanzé familier.
Voilà. Il faut noter aussi que les trois premiers. Oui, tu vas le dire, je suppose. Excuse-moi.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, les trois premiers, ce sont donc ceux qu'on trouve le plus souvent, en fait. Quand vous ouvrez la plupart du temps votre Landro Pets Box Loot, vous allez obtenir ces trois premiers. Les autres sont largement plus rares.
Mais en même temps, vu que c'est en échange de points UDE qui d'habitude vous servent seulement à obtenir. Alors, ça me semble, ça permet d'obtenir des tabards. Ça permet aussi d'obtenir quelques petits objets en dehors, c'est-à-dire des bons d'achat Jinx pour ceux qui connaissent.
Oui, c'est ça, ouais.
Des tapis de souris, etc. Enfin, après, si vous avez, soit si vous avez déjà tout ça, soit si ça vous intéresse pas, vous avez cette Landros Pet Box Loot qui permet d'obtenir quand même trois objets qui sont normalement des cartes loot. Et enfin, dernière news de notre partie de l'hiver, c'est la rumeur sur le nouveau MMO de Blizzard. Alors, quelle est cette rumeur, Florent?
Donc la rumeur vient donc d'un site qui s'appelle Naufrag, et donc la rumeur serait que ce nouveau MMO serait en fait pas un vrai, c'est pas un MMORPG, mais un MMO FPS. Voilà, un FPS, c'est le jeu classique où on voit juste donc l'arme de quelqu'un, donc style, je ne sais pas moi, Counter-Strike les plus connus, Call of Duty, pour Activision, qui est donc aussi chez Blizzard, donc enfin, Blizzard Activision.
Oh là, comment il fait de la pub?
C'est le même groupe. Donc c'est là qu'il y en a qui parlaient que peut-être ce MMO FPS, ça serait un truc en collaboration avec Activision, peut-être un MMO Call of Duty.
Ça, c'est, j'y crois pas.
C'est vraiment trop. Là, c'est des rumeurs, là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes que ce soit un MMO FPS.
En plus, ils ont dit que ça allait être une nouvelle licence, donc je vois assez mal comment ils pourraient faire Call of Duty, enfin MMO Call of Duty du moins.
Oui.
Donc et donc c'est quoi la différence entre un FPS et un MMO FPS?
Bah, un FPS parce que là, je vois que la différence est très. Le FPS, ça serait, c'est juste quand vous allez dans des parties et quand vous quittez la partie, c'est tout. Alors qu'un MMO, c'est, disons, c'est pas en temps réel, c'est en temps réel, mais je veux dire, c'est que c'est même quand vous quittez le jeu, le monde est toujours actif. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire.
C'est exactement ça.
C'est ça.
Donc voilà, et bah, c'était la dernière news de notre partie d'hiver et a fortiori des news du mois. Et donc, nous allons nous lancer tout de suite, sans même attendre, dans la partie rédactionnelle. Thank you. Partie rédactionnelle avec tout d'abord Warcraft pour les nuls et le truc du mois. Je vais te laisser en parler, Florent.
Donc le truc du mois, alors c'est ne pas hésiter à espionner les autres. Alors je vais m'expliquer parce que là vous allez me dire de quoi il parle.
Florent, c'est par exemple... espionne ses voisins.
Non, je n'espionne pas mes voisins. Déjà, je suis en appartement donc ça va être très dur. C'est donc, je parle donc d'utiliser l'armurerie. C'est-à-dire, par exemple, voir les talents en fait de ceux qui sont mieux que vous. Faut pas se cacher, il y en a qui sont mieux que vous, donc bah évidemment, certes, ça peut être le stuff. Donc là, vous pouvez voir quel stuff il vous faudrait pour avoir
pour être le meilleur rockstar du monde.
Voilà. Mais il y a surtout aussi les talents. Ça peut vraiment changer d'une la façon dont vous militez. Ça peut vraiment vous faire augmenter dans le DPS ou en PVP, pareil pour gagner en rapidité.
Ouais, c'est clair, faut pas hésiter à aller voir. Alors, évidemment, n'allez pas voir votre voisin, ou je sais pas, quelqu'un de votre guild, etc. Essayez d'aller voir les gens qui sont dans les meilleures guildes de votre serveur, ou les meilleures guildes mondiales, voir leurs talents, etc. N'hésitez pas non plus, si c'est sur un serveur français, pourquoi pas d'aller faire un alt et lui demander. Enfin, moi je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont whispé pour me demander. Bon, après, j'ai peut-être pas bien répondu, parce que je suis pas non plus excellent. Mais je m'intéresse un petit peu à ma classe et effectivement, c'était un peu su. Donc les gens après qui demandent comment tu fais ça, si ça vous dérange pas, enfin si vous avez peur de déranger, ne le faites pas. Mais moi je sais que j'hésite pas non plus à aller demander si j'ai besoin d'une info à un autre mage ou de demander sur les forums aussi. Voilà, utiliser l'armurerie et c'est surtout pour les talents effectivement. Ça sert aussi beaucoup pour le joueur contre joueur. Parce que vous regardez les meilleures personnes qui sont en arène, etc. Alors prenez en compte évidemment la composition de l'arène, etc. Mais ça peut vous aider à commencer, puis ensuite à élaborer vous-même votre propre arbre de talent avec vos propres spécificités selon ce que vous utilisez plus souvent, etc. Donc voilà. Tu as rien d'autre à ajouter, Florent ?
Non, c'est bon.
Ok. Donc second truc du mois, un peu le truc du mois bonus, mais un bonus pas terrible, hein, entre guillemets. Puisqu'on va vous parler, alors vous allez vous dire, on en parle tout le temps, mais on vous parle en ce moment des tentatives de hack. Et en ce moment, il y a un petit peu une recrudescence des tentatives de hack. On en a vu en plus des un peu nouvelles, entre guillemets. Bon là, évidemment les anciennes, c'est que ce soit par courrier ou MP en jeu. Si quelqu'un vous demande de visiter un lien externe, c'est-à-dire un lien sur Internet, si vous ne voyez pas la petite image bizarre devant le nom, évidemment, ne le faites pas, hein. N'y allez pas, sauf si c'est quelqu'un de votre guilde et qui vous dit « Tiens, va visiter ce lien, il y a machin. » Et encore, méfiez-vous, hein, parce que il pourrait s'être fait corrompre son compte lui-même. Méfiez-vous de ça, méfiez-vous évidemment des mails que vous recevez. Donc si on vous dit « Suivez ce lien et vous aurez 12 000 PO » ou alors « Suivez ce lien et vous aurez 2 pets exclusifs, etc. » C'est un mail qui cherche à vous voler votre compte. Et maintenant... Enfin, ça existait déjà un petit peu pour les sites de PO, etc. C'est-à-dire via les publicités de Google, les Google Ads. Et là, on a vu en fait, il y a quelques jours, ça a été retiré, me semble-t-il, par Google. Mais quand on tapait le mot sur google.com en anglais, si on tapait le mot Armory, A-R-M-O-R-Y, vous pouvez le faire aujourd'hui, j'ai vérifié, ça n'y est plus, me semble-t-il. Mais le premier lien qui s'affichait était un lien sponsorisé. Et c'était un lien évidemment qui envoyait vers une fausse armurerie. Qui cherchait tout simplement à vous voler votre compte. Et en plus, comme la plupart des choses sur la Armory vous demandent de rentrer votre compte et votre mot de passe, bah évidemment, c'était le meilleur moyen de vous voler votre compte, puisque vous donniez directement les informations au hacker. Donc faites toujours très attention sur ce que vous cliquez. Et je crois que c'en est terminé avec le truc du mois. Et on passe au mode du mois, Florent, qui est Deadly Boss Mode.
Oui, Deadly Boss Mode, qui a été gracieusement proposé par Lorik, donc je le remercie. Donc Deadly Boss Mode, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un add-on qui permet lors des combats en raid la plupart du temps de voir ce que font le boss. Par exemple, s'il va dans 10 secondes lancer un sort, ça va être marqué et ça va vous prévenir. Avec une petite... quand, par exemple, quand vous devez partir, vous éloigner loin du boss, il a une petite émote marrant. Ils vont utiliser le son que font le loup dans Karazhan. Le grand méchant loup, c'est cours petite fille, cours. Donc tu entends ça quand tu dois t'éloigner par exemple. Et c'est donc un add-on qui est assez équivalent à ce qu'ils connaissent à Big Wigs. Même si que chacun va être... En fait il y a deux qui sont de côté, il y en a qui sont pour plutôt Deadly Boss Mode, d'autres plutôt Big Wigs. Toi, je crois que tu as
Deadly
plutôt
Boss
des...
Mode!
Voilà, Deadly Boss Mode. Moi, j'ai utilisé surtout pour ma part Big Wigs, mais Deadly Boss Mode a l'air pas mal aussi. Donc après, je pense que ça dépend, peut-être déjà, ça a son affinité par rapport à la donne, mais je pense qu'ils sont assez équivalents, et après, chez chacun, suivant ses affinités, quoi.
Effectivement, j'ai essayé les deux aussi. En premier temps, j'avais Big Wings, et là, depuis, je crois que depuis que Wrath of the Lich King est sorti, je suis sous Deadly Boss Mode. Et j'ai rien à reprocher à cet add-on personnellement, donc je le trouve plutôt excellent. Il affiche vraiment les infos importantes, etc. Ne pollue pas trop votre écran. Bon, ça reste quand même un add-on qui prend un peu de place lorsque vous êtes en combat, hein, c'est-à-dire ça affiche vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc, si vous êtes assez peu adepte des écrans, comment dire, chargés, oubliez Deadly Boss Mode. Hein. Enfin, à part, enfin, j'ai pas non plus cherché à trop bidouiller les options, mais ça m'étonnerait que vous réussissiez à en faire un tout petit add-on qui soit bien caché, puisque le but c'est vraiment de vous prévenir des dangers immédiats et donc le plus simple est encore de l'afficher en énorme au milieu de l'écran.
Je suis quasiment sûr qu'il prend moins de place déjà que Big Wiz, déjà.
Big Wings, oui, l'écran, je m'en souviens, c'était assez énorme. Hein. Enfin,
Niveau
moi.
RAM aussi, je parle là. Niveau mémoire
Ah!
vive, s'il prend, je crois que aussi il est moins gourmand, je crois, Deadly Boss Mode.
Je sais plus du tout. Bah, je te dis, j'ai pas touché à Big Wings depuis très longtemps. Faudrait que je réessaye un de ces jours quand même pour voir s'il a évolué ou pas vraiment beaucoup. Mais, personnellement, Deadly Boss Mode, il me va tout à fait. C'est tout pour le mode du mois et on passe au Man Pet Show. Man Pet Show spécial Protodrac ce mois-ci. Je te laisse en parler, Florent.
Donc nous remercions encore une fois Jérôme qui nous permet d'avoir donc notre Moped Show du mois. Donc je vais parler donc des proto-drakes. Alors tout d'abord, il y a pour l'instant 7 lootables actuellement en jeu si vous connectez tout de suite et que vous allez essayer d'en avoir.
Tout de suite, hein. Hop.
Tout de suite. Enfin après,
Après,
voilà, et
ça, on pourrait
après.
faire, oui.
Alors tout d'abord, on a le proto-drake vert. Celui-là, il s'obtient grâce à la réputation Oracle, qui est donc une réputation du bachin de Cholazar à partir du niveau révéré. Et on a 2% de chance de le looter.
Donc vous en avez parlé, il me semble-t-il, il y a quelques épisodes,
Oui.
c'était l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, et c'est un œuf dont vous pouvez l'ouvrir une fois par semaine. Donc bon, une fois par semaine, vous avez rendez-vous avec les oracles, et donc au bout de 50 semaines, vous devriez l'avoir.
C'est de la probabilité. Alors après, il y en a qui ont au bout de. Ils ont fait un an, ils l'ont toujours pas. Donc bon,
Ah,
chacun sa chance, quoi.
bah, 50 semaines, Florent. Un an. C'est rien. Bon, c'est... Continue.
Mais bon, bah, ouais, je sais plus combien de semaines vraiment, mais ça, c'est pas grave.
Allez, c'est parti.
Après, nous avons donc le proto-drake bleu. Celui-là, donc, il se loot sur Skadi, la brutale.
Le brutal,
Le
pas
brutale.
l'abrutir.
Qui est donc dans la cime d'une garde en héroïque. Et le taux de loot, lui, est encore plus faible, il est de 1%.
Pas facile, j'ai jamais vu tomber personnellement.
Ni moi non plus. En troisième, nous avons un qui est surfarmé, le pauvre. C'est le proto-drake perdu dans le temps. Cette monture s'obtient donc en tuant le mob rare du même nom, qui se balade en volant dans les picoudroyers. Il se loot à 100%, mais ce mob rip-hop aléatoirement dans la semaine à certains moments.
Ouais,
Ce
c'est
qui
tous les
fait qu'il est
3-4
très
jours.
recherché.
Tous les 3-4 jours, donc c'est
Et c'est
pas
pas une
simple à
info.
voir, surtout qu'il est pas fixe, ouais, il vole en l'air, donc il a un parcours assez long quand même dans les pics foudroyés. Donc pour le trouver, et bah soit vous avez beaucoup de courage, soit vous êtes malin et vous essayez d'y aller le mercredi, juste après la maintenance. Puisqu'en général, il y a une partie des mobs rares qui apparaissent directement. Donc avec un peu de chance, vous pouvez le trouver. Le prochain?
Le prochain, donc c'est le. Alors là, on va passer dans ceux qu'on obtient avec les hauts faits. Donc il y en a 4 encore. Donc c'est le proto-drake rouge. C'est celui-là qui s'obtient en faisant l'hauts faits gloire au héros, qui est donc le hauts faits des donjons héroïques
C'est le moins
80.
difficile. C'est le moins difficile, même s'il y a quand même quelques hauts faits qui sont vraiment pas faciles. Hein.
Voilà. Donc après, nous avons le proto-drake pourpre, qu'on a vu apparaître il y a peu de temps. Enfin, les
Effectivement.
premiers à apparaître il y a peu de temps, qui est donc celui-là qu'on obtient en faisant le haut fait voyage au bout du monde, qui est donc le haut fait par rapport aux événements mondiaux.
Ouais, ça demande de tous les terminer. semble-t-il, tout simplement.
Et voilà. À part celui-là des anciens, pas des anciens, des
Pèlerin.
pèlerins, voilà, qui lui a été rajouté plus tard, donc il n'est pas dans la liste de ceux au fait. Après, nous avons le proto-drake rouillé, qui s'obtient lui donc en faisant gloire à l'écumeur du Luar, qui, comme son nom l'indique, est de faire les Ulduar
Mode
en 10,
normal, ouais.
en
Alors, oui,
normal.
en mode 10, pardon, exact, ça a changé de nom. En mode de 10 joueurs, et il y en a un pour le mode 25, non?
Oui, donc le proto-drake enchaîné, qui est donc la même chose, mais pour Ulduar 25.
Ok, c'est tout pour les poutres drag, il n'y en a que 7.
Ah, il en a 7 actuellement, mais avant on pouvait en looter 9, donc 2 de plus. C'était donc le proto-drake pestiféré qu'on obtenait en faisant gloire à l'écumeur de raid, qui était lui pour Naxxramas à 10. Et le proto-drake noir qui était pour gloire à l'écumeur de raid mode héroïque qui était pour Naxxramas 25.
C'était pas que pour Naxxramas, me semble-t-il. Il fallait aussi tuer Maligos, Sartarion, Arcavon, etc.
Bah oui, il avait enfin la il y avait la
C'était tous
plupart
les raids
des
de base
voilà,
de
tous les raids de
HMJ.
base, mais la plupart c'était quand même pour Naxxramas. Et
Oui.
vu que maintenant avec l'augmentation du loot etc ça devient pour eux pour les développeurs c'est trop facile à avoir, ils les ont supprimés.
C'était à quelle époque qu'ils les avaient retirés? C'était lorsqu'ils ont sorti le Colisée ou lorsqu'ils ont sorti Ulduar?
Je crois que c'est quand ils ont sorti le Colisée.
Moi j'aurais dit Ulduar. On verra qui a raison. Mais il me semblait que c'était à Ulduar. Et il n'y a pas de nouveau proto-drake pour la citadelle de la Couronne de Glace?
C'est pas des proto-drakes, c'est des wyrms.
Ah, ok. Et les Wyrmes qui sont d'ailleurs les montures pour les pour tous ceux qui font les. Comment ça s'appelle? Les arènes. Pour les vainqueurs du moins.
Oui, c'est ça, oui.
C'est des Wyrmes de givre aussi. Du moins pour les arènes depuis qu'il y a Cataclysme. Avant c'était des. Ah! Ah zut! Bon, le nom, j'ai perdu le
Des
nom.
drakes, non? Des drakes
Oui, mais c'était. Comment il
cuirassés,
s'appelle?
non?
Oui, mais il ressemblait à quoi déjà? Comment s'appelle? Les ailes de néant.
Voilà, bah c'est du
Il
drake.
ressemblait à ça. C'est ça, exactement. Ok, et bien c'est tout pour le Mande Pelchaud. On remercie encore Jérôme.
Avec toute ma gratitude.
Et on se lance dans Warcraft pour les semi-pros avec le devenir pro de ce mois-ci. Et ça sera la dernière leçon pour devenir un semi-pro du clavier. Donc dans les deux derniers épisodes, dans le premier je vous avais parlé des touches tabulation F, F pour assister la cible actuelle et A et E pour strafer. Et dans l'épisode d'après je vous avais parlé de tous les autres raccourcis qui se trouvent autour de vos touches de déplacement. Alors aujourd'hui, pour cette dernière petite leçon entre guillemets, elle n'a pas du tout pour but d'être exhaustive, hein, puisqu'avec un clavier, il y a, enfin, on pourrait en parler pendant 10 épisodes si on voulait vraiment aller dans tous les recoins pour devenir pro, mais bon, on va pas non plus aller trop trop loin. Donc là, on va déjà parler du moyen de démultiplier ces raccourcis au clavier. Et ces moyens, ce sont trois touches. Donc la touche Shift, la touche Contrôle et la touche Alt. Donc en fait, avec ces trois touches, vous pouvez lors de la création de raccourcis cliquer sur une des trois touches et cliquer sur une autre touche. Par exemple, pour prendre l'exemple, CTRL 1. Donc lorsque je clique sur CTRL 1, et ben ça va lancer une habilité différente que la touche 1 toute seule. Donc en fait, ça permet de réduire considérablement, de trois fois, le nombre de touches utiles. Donc par exemple, ça vous permet de ne plus utiliser les touches W, X, C, V, qui sont assez... Enfin, elles sont placées, elles sont bien pour le pouce, etc. Mais c'est quand même vachement plus ergonomique d'utiliser les touches 1, 2, 3, 4. Et j'y viens, utiliser les touches A et E. Alors je vous dis d'utiliser les touches A et E, pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment, vraiment améliorer votre jeu et surtout vos déplacements, il faudrait, pour le mieux, entre guillemets, abolir les touches Q et D. Donc les touches Q et D, vous le savez, elles vous permettent de vous tourner vers la gauche et vers la droite. Mais maintenant que vous êtes un pro, normalement, vous devriez savoir tourner avec la souris. C'est-à-dire, vous tournez la souris, vous pouvez tourner la caméra, et dès que vous appuyez sur les deux touches de votre souris, la touche droite et la touche gauche de votre souris, en même temps, ça vous fait avancer. Et en même temps, ça règle la caméra sur vous, si vous avez mis la caméra en automatique. Donc, normalement, vous devriez ne plus avoir besoin des touches Q et D, et vous devriez pouvoir vous déplacer seulement en strafant, et avec la touche avant et la touche arrière. D'accord? Et faire vos changements de direction avec la souris. Donc en fait, si vous supprimez les touches Q et D mais que vous continuez à straffer, autant déplacer les touches A et E sur les touches Q et D. Ça vous permet de vous déplacer avec Q, D, Z, S et de straffer avec Q et D. Et il vous reste deux touches libres maintenant, les touches A et E. Et les touches A et E, c'est si vous mettez vos doigts sur Z, Q, S, D, vous allez voir que les touches A et E, c'est vraiment les plus proches d'accès, avec la touche R et la touche F sur le côté. Mais A et E, c'est vraiment les deux touches. Les deux touches les plus simples à utiliser, quoi. Donc ça vous permet de mettre vraiment des habilités ultra simples à utiliser. Puis en plus, vous pouvez faire par exemple ensuite Shift E, Ctrl E, etc. Ça reste très facile à faire avec l'auriculaire pour cliquer sur Shift ou Ctrl. Voilà. Donc c'était tout pour cette dernière petite leçon pour devenir un semi-pro du clavier. J'espère que ça vous aura aidé.
Je pense qu'une échelle de 1 à 10 ne suffit pas à capturer tous les subtils détails de comptabilité. À mon avis, une gradation dimensionnelle de 1 à 12 reflèterait mieux l'importance des paramètres d'aptitude mécanique.
Toujours dans Warcraft pour les semi-pro, le débat du mois, mais ce mois-ci, nous n'en avons pas. Florent et moi, en fait, on n'a même plus à se parler maintenant. Nous sommes en communion totale sur tous les sujets du jeu, c'est ça?
Oui, nous sommes télépathiquement en accord, je suis sûr.
Ouais, je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé de sujet particulier sur lequel débattre ce mois-ci. C'est pas qu'il n'y a plus grand-chose, mais c'est tout simplement qu'on n'a pas eu de questions sur le jeu. Donc peut-être le mois prochain, peut-être pas. On verra plus tard. Et donc, nous nous lançons dans la partie histoire. Partie histoire avec l'histoire de la guerre des Trois Marteaux. Alors, la guerre des Trois Marteaux, cette histoire commence sous le règne du roi Modimus en Vilmar, au roi de tous les nains. En fait, durant son règne à ce roi, Ironforge, ou plutôt Forge Fer, était une ville prospère et qui se développait, mais le problème c'est que la cité devenait un peu trop petite pour contenir tous les nains. Et très vite, trois clans principaux se sont formés. Et sont restés dans une paix relative durant le règne de ce roi Modimus en Vilmar. Donc, ces trois clans étaient le clan Bronzebeard, Barbe de Bronze, mené par le Tan Madoran, Madoran Bronzebeard, qui étaient les protecteurs traditionnels d'Ironforge. Le second clan était le clan des Wildhammer, les Marteaux Hardis, qui étaient menés par le Tan Cardros Wildhammer, dans les collines et les plaines, qui étaient aux alentours d'Ironforge. Et enfin, les nains Dark Iron, donc Sombre Fer, qui étaient menés par le Tan sorcier Torissant, et qui vivaient dans les ombres les plus profondes de la montagne. À côté de ces trois clans principaux, il y avait aussi plusieurs autres petits clans sans véritable importance qui se sont, lors de la guerre des Trois Marteaux, rattachés aux trois grands clans. On pourrait par exemple parler des Stormpikes, les Foudrepics, qui étaient amis avec les Bronzebeard. Donc, le règne d'Anvilmar prend fin, il meurt de vieillesse, et cela marque le début de notre histoire, cela marque le début de la guerre des Trois Marteaux. Donc, à sa mort, la fragile paix entre les trois clans éclate, et une guerre civile dans Ironforge s'engage pour de nombreuses années. Donc cette guerre civile va durer, et les Bronzebeard, plus puissants et plus nombreux surtout que les deux autres clans, sortent victorieux et bannissent les Wildhammer et les Dark Iron dessous la montagne. Donc ils les bannissent d'Ironforge. Ces clans vaincus partent en exil, Cardros et ses guerriers Wildhammer vont partir vers le nord, ils vont partir à travers la porte de Dunalgaz, et ils vont fonder leur propre royaume. Ils vont donc construire la cité de Grim Battle, un peu à l'image d'Ironforge, ça va être leur Ironforge à eux. Torissant, quant à lui, le Tan sorcier Torissant, et sa femme Modgud, sa femme sorcière, vont fonder avec leur Dark Iron la cité de Torissant dans les monts Redridge. Donc ces monts Redridge qui se situent dans l'actuelle gorge des vents brûlants et les steppes ardentes. Mais à cette époque, le climat était le même que les Carmines aujourd'hui. Donc, c'était plutôt verdoyant, quoique un peu sec. Ces Dark Iron sont consumés par une vengeance terrible et ils souhaitent à tout prix obtenir leur revanche pour contrôler toute la région de Kazmodan. Ainsi, la guerre des trois marteaux continue, tout simplement parce que les Dark Iron vont préparer une attaque simultanée contre les deux autres clans, contre donc Ironforge et contre Grim Battle. Donc les deux armées vont se diriger vers les deux cités naines, la première dirigée par Torissan va attaquer Forge Fer, et cette bataille va être très serrée en fait. Madoran Bronzebird et son clan vont finir de justesse à repousser les armées de Torissan, lesquelles vont s'enfuir vers leur cité, donc vers le sud. La seconde attaque, quant à elle, est dirigée par Maud Good, la femme de Torissan, et elle va attaquer Grim Battle. Donc la bataille va être féroce, Maud Good va en appeler aux ombres de sous la montagne pour piéger et pour semer la peur dans le cœur des Wildhammer. Donc Maud Good va réussir à passer les défenses et va même mener un siège au cœur de la forteresse de Grim Battle, et c'est seulement dans un dernier élan de courage, de désespoir, que Cardross Wildhammer, lui-même, le roi, va s'élancer sur la reine sorcière et va la battre. Donc, suite à la mort de la sorcière, suite à la mort de Maud Good, les Dark Iron vont fuir Grim Battle et vont tenter de rallier leur cité qui est au sud, mais bien plus au sud. Hein. Vous voyez bien où situe Grim Battle, plutôt en Kazmodan très nord, voire limite Lord Iron, contrairement à Torissan qui se trouve bien plus au sud. Donc les Dark Iron fuient, mais ils vont tomber sur les armées d'Ironforge, qui elles ont réussi à se débarrasser de la première attaque de Torissan, les armées d'Ironforge qui sont venues à l'aide de Grim Battle et des Wildhammer. Donc l'armée part complètement en déroute, et les nains sont massacrés, les nains, les Dark Iron sont massacrés, et l'armée est détruite. Nouvellement alliés, les forces de Grim Battle et d'Ironforge, menées par Madoran donc et Cardross, décident d'aller vers le sud pour détruire une fois pour toutes, ils ont l'intention d'annihiler totalement les Dark Iron et leur ville Torissan, donc réduire la menace à néant. Cependant, ils vont pas réussir à aller bien loin, parce qu'ils vont être stoppés par la fureur de Torissan, qui lui va complètement... Torissan, évidemment, je parle du sorcier cette fois-ci... qui dans sa folie meurtrière, il est tombé dans une folie meurtrière à cause de la mort de sa femme, il va incanter un sort cataclysmique, un sort qui est censé lui donner la servitude donc d'un être au pouvoir surnaturel, ce qui lui permettrait de s'assurer la victoire contre les deux clans face à lui. Cependant, cela va être sa perte, car la créature qu'il va éveiller, en fait, c'est un seigneur qui avait été banni quand le monde était encore jeune par les titans. Alors, ce seigneur, vous le connaissez peut-être, même certainement, il s'appelle Ragnaros, il s'agit du seigneur du feu, qui avait été libéré, qui a été libéré par l'appel de Torissan. Le retour apocalyptique de Ragnaros sur Terre, son retour en fait à la surface, va créer un volcan rugissant, qui est au centre de la dévastation qu'il va créer, qu'on nomme aujourd'hui le mont Blackrock, le mont Roche Noire, et aussi son retour va créer la destruction des régions environnantes. Donc ça va créer les steppes ardentes que nous connaissons aujourd'hui, complètement brûlées, etc. Torissan est tué par la puissance de son sort, il ne s'attendait pas à réveiller un monstre aussi puissant, et son peuple, les Dark Iron, sont réduits en esclavage par le Seigneur du Feu. Donc si vous faites les quêtes de cette zone, d'ailleurs, vous pouvez en voir un grand nombre qui s'affairent à creuser, etc. Pour le Seigneur du Feu, Ragnaros. Témoin de cette destruction, évidemment, les rois Madoran et Cardross arrêtent directement leur avancée, et ils décident de retourner en hâte dans leur cité, à Ironforge et à Grim Battle, car ils ne veulent pas évidemment affronter l'immortel de feu, ils ont bien trop peur de Ragnaros. Les Bronzebird donc reconstruisent leur cité d'Ironforge, et les Wildhammer retournent à Grim Battle. Cependant, les Wildhammer ne s'attendaient pas à retrouver leur cité dans un état pareil, et il y a en fait une malédiction, la mort de la sorcière, la mort de Maud Good, a créé une sorte de malédiction dans la forteresse qui oblige les nains à quitter la cité, ils ne peuvent plus vivre dans cette forteresse maudite. Donc Madoran Bronzebird, le roi d'Ironforge, offre aux Wildhammer de vivre aux alentours d'Ironforge, il leur offre des terres, mais les Wildhammer déclinent l'offre et ils préfèrent s'installer dans les collines forestières et verdoyantes des Interland, plus au nord, en Lord Iron, où ils vont se rapprocher de la nature et des puissants griffons. Et d'ailleurs, les griffons que vous pouvez trouver dans tous les royaumes de l'Est sont des griffons tenus par des Wildhammer. Le commerce entre les deux peuples, entre les Wildhammer et les Bronzebird, devient prospère. Il est soutenu d'ailleurs par la construction des arches du viaduc de Tandol, pour ceux qui connaissent, qui relie Casmodan à Lord Aeron. Enfin, pour terminer cette histoire de la guerre des Trois Marteaux, à la mort de Madoran et de Cardross, deux grandes statues ont été construites. Alors vous les connaissez certainement, ce sont deux statues qui tendent le bras et qui gardent en fait qui gardent la passe menant vers le sud où Ragnaros vit. Donc cela sert d'avertissement à tous ceux qui souhaiteraient attaquer les royaumes des nains, hein, et rappelle surtout à tous le prix payé par les Dark Iron pour leurs crimes. Donc ce sont un peu les restes de tout cela. Et aussi, encore à titre d'information, vous pouvez voir Madoran Bronzebird, pardon, pas Madoran, j'ai des bêtises, le roi Anvilmar, je vous en ai parlé tout au début, petit clin d'œil, vous pouvez voir ce roi Anvilmar à l'entrée de Forgefer. Il a une statue immense dans laquelle il tient un marteau, même deux marteaux dans les mains, dans un cri de guerre figé dans la roche. Voilà, c'était tout pour l'histoire des trois marteaux, et je souhaitais remercier évidemment Michael, alias Elunaran, pour cette histoire qu'il a encore une fois magnifiquement écrite. Et nous lançons sans plus tarder dans la partie fourre-tout. You change your class like a druid changes form. Yeah, you have the most outset I've ever seen. Seem to think that's the right thing to do. I should know. Partie fourre-tout avec tout d'abord le on aime, on n'aime pas. Et ce qu'on aime ce mois-ci, c'est l'activité de la communauté. Et c'est surtout toi, Florent, qui aime ça.
Ouais, c'est parce que donc en cherchant, en regardant un peu sur le web et tout, et en même temps en cherchant des maquinimas ou des vidéos faites par les fans, on se rend compte que vraiment la communauté est vraiment très active. Qu'il y a des dizaines de vidéos qui sont faites chaque jour. Donc pas mal, sont quand même vraiment bien.
On sent qu'il y a du travail, on sent que c'est des mois de travail. Hein.
C'est dans les maquinimas, dans les musiques, le fan art, sur le cosplay. On sent que voilà, il y a vraiment une communauté très forte derrière le jeu, et ça fait plaisir et c'est vraiment beau à voir. Moi.
Ouais, je sais pas si on se rend plus compte que les autres, mais c'est vrai que par exemple, tout bêtement, quand on cherche les musiques pour introduire le fourre-tout, d'ailleurs la musique ce mois-ci c'est Halterholic. Que Florent a trouvé d'ailleurs. Il me semble que tu apprécies bien cette musique.
Oui, moi, elle me fait marrer. Enfin, je trouve que la musique en elle-même, je suis pas un grand fan de cette chanteuse d'où c'est tiré, la reprise. Mais les paroles là sont quand même bien recherchées. C'est ça aussi qui sont vrais. C'est vraiment des vraies paroles.
C'est une reprise, me semble-t-il, non?
Oui, c'est une reprise de. Alors, je ne sais jamais le nom de la chanteuse.
Katy Perry, mais il me semble en plus que c'est une reprise d'une autre personne qui
oui,
a
voilà.
fait cette musique.
Oui, voilà. Parce qu'en fait, au départ, la personne avant qui avait fait les paroles a fait des super paroles, mais a pas une voix très. voilà. Oui, mais ouais. Il n'empêche que ses paroles sont géniales. Donc, elle, la fille qui a fait donc, cette chanson, a repris donc, les paroles de quelqu'un. Mais vu qu'elle a une superbe voix, je trouve.
Oui, c'est oui. Elle a une jolie voix, c'est vrai.
Elle a une jolie voix quand même. Elle a une voix.
Tout ça
Voilà,
pour
ça va.
dire que pour choisir cette musique, on a dû faire un choix entre plusieurs autres musiques, puisque rien qu'en un mois et demi, on a eu combien? On a fait le choix entre deux, trois musiques, hein, un peu plus.
Plus. Bah après, ça dépend. Il y a suivant les styles qui vont bien ou pas avec
Voilà,
le
c'est clair. Et puis
podcast.
aussi, suivant la qualité, mais je veux dire,
Voilà.
on parle de au moins, oui, deux, voire
Au moins
trois,
une
quatre.
dizaine de machinimas que sur des trucs musicaux de chansons qui ont été créées spécialement pour faire cette machinima.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très, très. Enfin, bref, voilà. Nous, ce qu'on aime, c'est la grande activité créative de la communauté. Et on a des exemples tous les jours avec les fanarts, les cosplays, même les gens qui font des screens, tout simplement. Il y a des screens qui sont très jolis. Voilà. Donc, on voulait vous dire qu'on aimait ce travail et qu'on aimait tous les gens qui faisaient ça. Par contre, il y a des choses qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on n'aime pas. Et là, c'est moi, ce mois-ci, qui n'aime pas. Et j'aime
Gros
pas
coup de gueule.
le. Comment?
Un gros coup de gueule là pour le coup.
Ouais, non, mais là, on n'aime pas le magazine World of Warcraft. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas le magazine en lui-même, hein, on est sûr qu'il va être génial, etc. Par contre, très franchement, là, malgré une preview de 40 pages, déjà, il y a un problème, enfin, moi je trouve qu'il y a un problème en termes de prix, qui est bien au-dessus du marché. En Europe, c'est environ 10 euros l'exemplaire. Ça dépend si vous inscrivez pour 1 ou 2 ans. Si vous inscrivez pour 2 ans, il me semble que ça fait tomber à peu près à 9 euros, quelque chose comme 9,30 euros. Et si vous inscrivez pour un an seulement, ça fait quelque chose comme 10,50 euros. Enfin bref. Quand on voit un autre magazine comme Joystick, qui fait des hors-séries sur WoW, mais c'est des hors-séries à 7,50 euros, et c'est surtout des hors-séries qui sont disponibles dans les points de vente habituels, dans les points de vente, dans les zutres, les
Marchand de journaux.
marchands de journaux, j'allais dire magasins de journaux, il y a un problème. Les marchands de journaux, qui sont donc plus simples d'accès. Enfin voilà quoi, 10 euros l'exemplaire, c'est déjà très cher. Et puis leur retard aussi, ils ont un retard incroyable. J'ai demandé à un ami qui l'a commandé, car moi j'ai pas commandé ce magazine, hein, mais un ami qui l'a commandé, ils avaient dit que ça devait être dispo fin décembre, et apparemment il l'a toujours pas reçu. Alors je sais pas si c'est le seul dans ce cas-là, mais il me semble que même sur le site, ils ont pas dit avoir envoyé les magazines, si.
Non, j'ai pas vu que c'est marqué. J'en ai vu certains aussi, par exemple, sur Jojype, qui se demandaient quand est-ce que j'allais recevoir mon magazine parce qu'il l'avait toujours pas reçu.
Là, c'est un peu
Donc
du. Voilà
bon.
quoi. Le magazine a un retard énorme. Petit foutage de gueule. Le prix est pas mal aussi. Donc là, gros moins un quand même pour ceux qui font le magazine. Alors, je sais pas si c'est Blizzard, mais dans tous les cas, c'est pas terrible, terrible. Faudrait que je retrouve le nom de l'éditeur de ce magazine. Et puis la preview. Enfin, il y a de très jolis fan art. Pardon, pas fan art. Comment on appelle ça? Oh là là, j'oublie tout en ce moment, c'est absolument ignoble. Hein. Bah si, des fan art. Si, c'est ça. Non, mais. Parce que c'est pas des fans qui l'ont fait, je pense. C'est des vrais dessinateurs, vois-tu. Non pas que les gens qui fassent des fan art ne sont pas des vrais dessinateurs,
Dessin
qu'est-ce
de
que je
développeur,
raconte?
quoi, de.
Voilà, des dessins qui sont un peu exclusifs. C'est très joli. Mais après, il n'y a pas de. Comment dire? De
Il n'y a
l'exclusif
pas de
dans ce
contenu.
magazine.
Voilà, il n'y a pas de l'exclusif. Alors, c'est, je crois, quasiment des choses qui ont été dites avant à la BlizzCon, un truc comme ça, je crois. Hein.
Ouais, c'est toujours intéressant
Dans la
d'avoir. Enfin,
preview.
c'est pour les gros fans, quoi. Faut être très fan de World of Warcraft. Je
Et
suis
avoir
pas
l'argent.
sûr. Et avoir l'argent. Moi, j'ai l'argent, mais c'est même. Voilà, quoi.
Non, mais je veux
Quand
dire
je
que
vois leur prix.
déjà 13 euros par mois pour Warcraft, si en plus tu veux 10 euros par tous les 3 mois pour t'acheter ton exemplaire,
Oui,
voilà,
non,
ça
mais
commence à
après,
faire quand
voilà,
même.
c'est un bel objet. Il fait plus de 140 pages, me semble-t-il. Mais après, si c'est pour l'avoir tout le temps en retard, etc. Voilà. Non, merci, je passe. On arrête ici ce on n'aime pas. Je pense qu'on a assez détruit le magazine de World of Warcraft. Qui, je pense, quand même, va être d'une bonne qualité, certainement. Mais voilà. Public, te voilà averti. Toujours dans le fourre-tout, on passe à la partie d'hiver. Hein, tout ce qui gravite autour de World of Warcraft. Et pour rester dans des bouquins. On va parler du guide des donjons de Bradley Games. Alors, on va en parler. On va en dire simplement quelques mots. Vous devez connaître ce guide déjà par cœur, je suppose. Il y en avait eu un pour World of Warcraft original. Il y en a eu un pour The Burning Crusade. Même, je crois qu'il y en avait eu deux à l'époque de Burning Crusade. Non?
Alors, je ne sais pas, alors je pourrais pas te dire.
Question potentielle. Et là, il y en a un aussi, enfin, j'ai envie de dire, pour Wrath of the Lich King. Mais c'est quand même, comme toujours, super tardif. Hein. Il arrive super tard, ce guide des donjons. Ça fait combien de temps? Ça fait un an, quoi, que l'extension est sortie. Donc bon. C'est encore une fois pour les fans, pour les peut-être les débutants aussi, ceux qui arrivent fraîchement 80, si vous avez envie d'avoir un petit guide, si vous êtes intéressé. En sachant qu'il est déjà un petit peu dépassé, puisqu'il a été fait avant la 3.3, donc il y a seulement quelques infos. Je crois qu'il me semble qu'ils ont fait une preview de 12 pages dans ce guide des donjons de la Citadelle à la Couronne de Glace, etc. Par contre, là, on parle pas d'un guide qui fait 100 pages, hein, il fait plus de 400 pages ce guide, hein, donc c'est vraiment le bottin, The Bottin of Wrath of the Lich King. Donc je sais pas si tu vas l'acheter, toi, Florent, fan comme tu es.
Non, je vais pas quand même jusqu'à acheter des guides comme ça. Ça, je pense que pour moi, le web se suffit à lui-même.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est comme on parle toujours de bels objets, hein, tu sais. Toi, par exemple, t'es fan des éditions collector. Pourquoi?
Pareil, oui, je suis d'accord que c'est un bel objet, mais en fait, moi, pour les bels objets, je vais plutôt voir d'autres choses.
Pour les
Plus
beaux
tout ce qui
objets,
est.
ouais, effectivement.
Bah, la plupart du temps, je trouve que les goodies de World of Warcraft sont pas si bien que ça, en fait.
Bah oui, mais bon, attends, en même temps, c'est, je veux dire.
Et c'est pour ça que la plupart du temps, bon, je vais acheter autre chose et c'est tout. Faut pas
Oui,
faire chier plus loin.
c'est clair, c'est clair, c'est clair, mais bon, ça va. C'est pour les fans, quoi.
Collectionne.
Autre chose dans la. Exactement. Autre chose dans la partie d'hiver, le film de Warcraft. On espère que ça va avancer. Tout simplement parce que Sam Raimi, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a réalisé les trois premiers Spider-Man, ne devrait pas tourner Spider-Man 4. Il n'a pas été mis à la porte, je pense pas, mais en tout cas, ça ne sera pas lui qui va réaliser ce film. Et donc, on espère que son prochain film sera Warcraft. Bon, par contre, on sait qu'il a d'autres projets dans les cartons, lui aussi. Donc, espérons. Alors, est-ce que tu fais partie des gens qui espèrent que Sam Raimi va tourner Warcraft, ou est-ce que tu fais partie des personnes qui souhaitent qu'il ne le tourne jamais?
Bah, le fait est que les Spider-Man, je suis vraiment pas un grand fan de ces films-là de super-héros. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. C'est-à-dire, je veux dire, je ne voudrais pas qu'il fasse un peu comme il a tourné Spider-Man, faire pareil avec Warcraft, par exemple.
Disons qu'il a quand même réussi à, comment dire, à offrir Spider-Man au plus grand nombre. C'est-à-dire, quand tu lis les comics, etc., c'est. Attends, c'est pas. Faut suivre un petit peu, hein. Il a quand même réussi à vulgariser, entre guillemets, l'univers de Spider-Man pour en faire un film d'action somme toute correct. Bon, après, je suis pas un très grand fan du troisième volet, par exemple, mais le premier volet déjà était très bon. Bon. Après, je
On
trouve, bon,
verra.
il a fait une trilogie assez sympathique. Pardon, assez sympathique. Pour le plus grand nombre. Bon, effectivement, nous on est fanboy de Warcraft, donc si on nous fait un Warcraft édulcoré, je suis pas sûr que ça va nous plaire, mais bon.
J'aime pas les discours, toi, les méchants, et surtout les pas gentils.
Autre chose dans la partie d'hiver, je vais te laisser en parler, Florent.
C'est donc quelques petites maquinimas.
Il y en a au moins
Tout
trois.
d'abord. Donc, trois maquinimas. Tout d'abord, une qui s'appelle Shadow of Dalaran City. Et on va rester un peu dans les comics, donc, parce qu'en fait, c'est une maquinima qui fait une enquête policière et qui, en même temps, donc une maquinima normale, et des fois, ça revient comme en fait en forme de planche, comme dans les comics. Un peu, je ne sais plus quel film faisait ça, je crois que c'était Sin City, mais je suis même pas sûr.
Ouh là là, tu me poses des questions.
Là, je reviens loin, mais bon, ouais, donc c'est très sympa comment c'est fait. Et l'histoire est vraiment bien aussi, le scénario est pas mal. C'est une petite vidéo, hein, ça dure 5 minutes. Et bon, voilà, donc c'est à regarder, moi je dis.
Moi, ça me fait penser à Hero Corp. Je sais pas si tu l'as vu ou pas, Hero Corp.
Hero
Attention.
Corp, je n'ai pas vu.
Oh
Et
là
je,
là
je
là là,
connais.
malheureux.
Je compte l'acheter, en fait, bientôt.
Non, moi.
Vu que nos amis de Scuds.tv m'ont grandement fait envie avec leur interview de Simon Astier et de Lionel Astier,
C'est
donc
ça.
au jeu.
Père et fils. Enfin, dans l'ordre inverse. Fils et père, effectivement. Hero Corp est donc le générique d'Hero Corp qui est sous forme de comique. C'est pour ça qu'on vous en parle. Seconde vidéo. Spacebar Clown. Ou Clown plutôt.
Spacebar Clown, oui. Donc qui est une vidéo, enfin une maquinima, enfin en deux maquinimas. Je m'explique. En fait, il y a un tout départ où c'est en fait un sorte de World of Warcraft 8 bits. C'est tout donc en 8 bits. Et c'est vraiment génial comment c'est fait. Ça fait vraiment réel, j'aurais trop vu World of Warcraft un peu comme ça aurait pu être marrant.
Ça me rappelle 2D. Une extension où on devait jouer Molten Core, un peu en 8 bits aussi. Hein.
Oui, c'est Molten Core, oui, je sais plus comment c'était le titre, mais qui est jouable la
qui
version.
Jouable, oui.
Il y en a qui ont fini le jeu, Daniel a fini le jeu, si je dis pas de bêtises.
Oh là là, oui, c'était à l'époque, donc pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était un poisson d'avril d'il y a 2 ans, me semble-t-il. C'était pas cette année.
Voilà. Et donc, il y a donc ça en début. Et après, il y a vraiment une chanson, ça c'est musical, une vidéo. Donc, pour c'est Space Barcoon, c'est pour en fait, c'est pour parler de ceux qui font que de sauter partout. Et là, c'est évidemment un elfe de la nuit, parce que la plupart du temps, c'est vrai que les elfes de la nuit ont plus tendance à sauter.
Info, les elfes de la nuit ont tendance à plus sauter que les autres. On vient d'apprendre quelque chose. Hein,
je n'ai rien dit.
Oui, bien sûr.
C'est toi qui interprètes, je n'ai rien dit de spécial. Moi.
J'ai rien interprété, j'ai simplement répété.
Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, c'est aussi pas mal, la chanson est pas mal, et surtout, moi, j'aime beaucoup vraiment le tout départ avec la version 8.
Ok, enfin, dernière machinima, The Worgen.
Donc, The Worgen, A World of Warcraft Cinematic Movie, qui est en fait l'histoire de deux humains. Dont l'un va expliquer en fait l'histoire des Worgen, enfin comment ils sont arrivés là, avec à l'histoire avec Arugal donc, et comment c'est présenté, c'est très bien fait je trouve.
Est-ce que c'est aussi bien présenté qu'une partie histoire sur les Worgen?
C'est pas la même chose. C'est écrit, enfin c'est oral et l'autre c'est vidéo.
Ouais. Hein. Bon, donc ça parle d'Arugal et tout, c'est ça? Et d'une manière intéressante ou...
J'ai
pas vu.
On le voit déjà enfin, dans le jeu, quoi. C'est assez. On n'a jamais vu vraiment l'histoire d'Arugal. C'est juste écrite, on l'a jamais vu vraiment de cinématique ou quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment pas mal fait. Donc. Pour ceux qui veulent en savoir plus et qui en connaissent pas beaucoup, mais c'est en anglais, bien sûr. Ah, comme oui. la plupart des.
Des bonnes machinimas. Enfin, attention, on dit la plupart, hein. Il y a quand même
que,
des très
la
bons.
La première que j'ai dit, Shadow of the Larian City, par exemple, est en français, c'est un français.
Oui, mais il y a pas mal de bons movie makers français, hein. Quand tu vois par exemple, je sais pas, Jack, Holy Beat.
Ils font la plupart du temps en anglais, c'est ça le problème, il y en a qui sont.
Oui, c'est vrai, Sous-titré français en général, mais oui, effectivement.
Heureusement.
Enfin, en même temps, si on veut toucher le plus grand nombre. Hein.
Je les comprends.
Promis à Zerod.fr, voilà. Restaurant en français, puisqu'il est tout à fait bloqué par son nom, tout simplement. Donc, bon, passons cette blague minable et terminons la partie d'hiver avec l'anniversaire de la sortie de Burning Crusade, qui était donc du 15 au 16 janvier, donc c'était il y a à peine quelques jours. Et à la sortie de Burning Crusade, c'était il y a combien d'années? Attention, réflexion, 1, 2, 3, 4, 5 ans.
C'était en 2007, donc 3 ans.
Oh, 3 ans, ouais. Putain, ça fait longtemps. Hein.
Et donc, nous vous proposons donc de revoir pour le coup, ce coup-ci la vidéo qu'avait fait Patrick sur la sortie donc aux Champs-Élysées.
Oh là là, le gros fanboy. Oh, comment t'es fan de Patrick.
Je ne dirai rien.
Non, effectivement, donc on va vous mettre les liens de quelques vidéos. C'était des vidéos que. Donc la vidéo de la sortie sur les Champs-Élysées, puis aussi, pourquoi pas, les liens aussi qu'avait fait. Des vidéos qu'avait fait Blizzard à l'occasion. C'est à peu près tout pour le fourre-tout, ou du moins pour la partie d'hiver. On va s'atteler aux quelques commentaires iTunes et aux autres commentaires. Donc ce mois-ci, combien de commentaires, Florent?
Donc, des commentaires iTunes, nous en avons donc 518.
518 donc pas mal. Commentaires iTunes, ça, c'est...
dépassé la barre des 500.
On l'avait dépassé le mois dernier déjà, mon cher.
C'est sûr?
Ah bah, certains,
ah, peut-être. Oui. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc bon, je ne pourrais pas te dire pour le coup.
Bon, même qu'on avait fait, on était contents et tout. Bon, c'est pas grave. Donc, deux commentaires pour le coup. Alors, tout d'abord, un commentaire de Grand Cheval, très beau nom. De votre faute, je me remets à WoW. Merci, super podcast. Bah, très content d'avoir fait reprendre WoW.
Mon Dieu, on rend les gens addictifs.
Oh là là, oui, ça y est. Et second commentaire, je vais te laisser le lire, Florent.
Donc de Nemesis21 qui vous dit: voilà, pour ma part, je connais ce podcast depuis peu, 6 mois. et je le trouve génial. Vous faites une bonne équipe, un bon boulot, donc continuez comme ça, car c'est avec impatience que j'attends chaque mois la sortie du prochain numéro. Merci pour tout.
Eh ben, merci à vous pour tous ces bons commentaires. Pas de critiques ce mois-ci, hein. Non, c'est le début d'année, on commence soft, on les mettra le mois prochain.
C'est la bonne résolution, on va plus mettre de commentaires critiques.
Maintenant, dans les commentaires, on se lance plus que des fleurs, ça y est, on est en 2010, on va prendre la grosse tête, très important.
Il nous reste plus que 2 ans à vivre, alors dans tous les cas...
Ah oui, un tout petit peu plus en fait, hein. 2 ans et 10 mois, allez. Bon, et ben, c'est la fin de notre épisode. Ah, ça, il manque quelque chose, non? T'as pas l'impression?
Mm-hmm.
Un petit truc là. Ah oui, un cadeau bonus peut-être. De la lessive, un cadeau bonus. Et notre cadeau bonus ce mois-ci, c'est...
Oh mon dieu.
Oui, la blague était pathétique, mais c'est pour ça que je suis passé rapidement dessus. Bon, ce mois-ci, donc, notre cadeau bonus, c'est la chambre de Marcel. Mais qu'est-ce que c'est la chambre de Marcel, Florent?
C'est encore une chose folle de Xélandre. Ce Murloc un peu bizarre a créé une zone donc cachée sur le bloc Azeroth.fr.
Et oui, une zone cachée et vous pouvez pas y accéder. Voilà, dommage pour vous.
Il faut penser très fort au code Konami. Et la plupart du temps, elle apparaît. En fait.
Ah, faut penser très fort au code Konami. Ah, bon, d'accord.
Ouais.
Konami avec un K, non? Parce que sinon, Konami, Ami. Non, elle est nulle. Je ne ferai pas cette blague. Donc oui, une petite zone cachée comme ça. Si vous arrivez à la trouver, vous risquez
évidemment
de tomber.
Garder le secret.
Oui, hein, mais si vous trouvez la partie, gardez le secret. Sinon, ça nous embêterait de devoir fermer cette partie qu'on trouve un peu rigolote, mais tout est expliqué dessus. Le mystère reste entier pour le moment, et si vous arrivez à y accéder, je pense que vous verrez quelques spécimens étranges.
Et bientôt un film comme le Da Vinci Code.
Non.
Je sais pas, Da Vinci Code, truc secret et tout.
Oh là là.
Là, mon dieu.
Et bien c'est sur cette vanne.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est sur ces vannes nazes que nous allons nous quitter. Donc on vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. Je pense que l'épisode de février ne sera pas en retard. On a hésité à le décaler d'une semaine puisque là il y a assez peu de temps entre les deux épisodes. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc, on vous préviendra si l'épisode risque d'avoir une semaine de retard. Je ne pense pas. Et donc, bonne fin de mois. Et encore une bonne année, d'ailleurs, puisqu'on est en janvier. On a encore le droit de le dire, on en profite. Et voilà. Allez, à plus.
Bonne année et au revoir.
Oh, merde. Non, mais... c'était bien?
Non.
D'accord, oui.
J'ai une voix bizarre à la fin.
Mais non, pas mais t'as fait « Eh, bonne année
!» Non, mais je sais pas, j'ai une voix. J'ai pas eu ma voix, en fait.
Grave ou bonne année.
Non, c'était pas ma voix, je sais pas ce que j'avais.
T'as une joyeuse année SM. Hein oh, vous... Attends, je te jure.
Oh, mon Dieu. Oh. As-tu gâté aux soirées?
Ah bah tu vas plus aux soirées. Bah attends, il est minuit 32 là, hein, d'accord.
Attends,
ok.
C'est pas, hier on a fait une soirée DPS. Et bah j'en ai pris plein avec.
J'en ai pris plein. C'est
blague
moi qui ai...
de Christophe Fonsol.
C'est moi qui ai tanké.
Zapcast. Ouais, je fais une petite clin d'œil.
Très très bonne vanne. Bon, oui, on va peut-être. Hein, voilà. Ouais, clôturer. Donc, allez, gros bisous à tous.
Ciao.
À plus.